Alors bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bien sûr, avant de commencer le cours, on va bien expliquer comment cette kavana, mais on va le répéter à la fin du cours, que le cours est dédié les Ilou Nishmatam à la mémoire de Moni Shlomo Ben Natifé et de Benjamin Ben Esther Georgia et de Yosef Ben Julia et malheureusement du Rav Gabriel Holzberg et de sa femme Rivki qui sont partis à Bombay avec les attentats. Il y a des soldats aussi malheureusement qui sont partis et le couple qui était avec eux, on ne connaît pas le nom mais c'est pas grave. On les inclut parmi les tzadikim d'Israël car je m'en prie d'élèves lors des Shavuot. Alors bien que, en réalité le sujet il est plus adapté à la paracha qu'on a vu la semaine dernière, mais on va voir que c'est un sujet qu'on peut aborder n'importe quel moment de l'année parce qu'il est tellement large, il inclut tellement de choses, mais d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que Akadosh Boukou des fois il fait des choses compliquées alors que nous on aurait pensé qu'elle devrait être simple. Vous voyez, cette situation là-bas, juste pour rappeler pour ceux qui la connaissent pas bien ou qui n'ont pas étudié ou qui n'ont pas vu le film, que Yitzhak et Rivka sont les deux tzadikim. Deux tzadikim. Ils ont deux enfants, deux garçons. Un qui s'appelle Yaakov, un qui s'appelle Esav. Et pour nous, c'est les deux symboles de l'antithèse. Parce que Yaakov, c'est le tzadik, c'est le révélateur, c'est lui le démarrage du Ram Israël. On s'appelle Yaakov Israël. Son visage, il est gravé sur le trône céleste, sur le Kissa Kavod. Et Esav, c'est le contraire. C'est le destructeur, c'est le tueur, c'est le violeur. Et en deux extrêmes. Les deux, ils viennent d'une seule entité, d'un seul couple. Ça, c'est une chose difficile à comprendre. Parce que le pommier, il fait des pommes, c'est normal. Mais cet arbre-là, il fait des herbes amères, il fait des fruits amers. Mais comment un même arbre comme ça, comme Yitzhak et Rivka, il peut produire deux éléments qui sont tellement différents. Et le pire, c'est que les deux, en plus, c'est des jumeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient en même temps dans le même ventre de leur mère. Et pire encore, c'est la même cellule qui s'est divisée en deux. Donc il y a une cellule qui est sortie complètement racha, une cellule qui est sortie complètement sadique. C'est une chose qui est difficile à comprendre. Donc déjà, la Torah nous raconte comment dans le ventre de leur mère, déjà, ils se bagarrent entre eux. Après, la Torah, elle dit que Yitzhak, il a aimé Esav. Ça aussi, c'est une chose qui est très difficile à comprendre. Tout le monde pose la question, comment est-ce que c'est possible que Yitzhak ne s'est pas rendu compte que Esav était un rachat? C'est-à-dire que tout le pays était au courant. C'est comme si quelqu'un dit c'est le patron de la mafia, ouais, et tout le monde est au courant sauf son père. C'est pas possible. D'un autre côté, la mère, elle aimait Yaakov. Elle a tout avec son père à Yaakov. Après, la nature des enfants n'a rien à voir. Parce que Rachid explique que jusqu'à l'âge de 13 ans, ils étaient pareils. Ils ont été dans la même école, dans la même yeshiva, ils ont étudié la même Torah. À 13 ans, Yaakov, il a décidé de se consacrer sa vie à l'étude. Et Sam, il est parti dans le délire des Tavot et des Averot. Et après, la Torah explique que Yaakov, il est Ishtam de Shevoali. C'est quelqu'un qui est assis dans la tempête de la Torah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné toute sa vie pour l'intériorité de la Torah. Et ça, Ishtadé, Dieu des Hatsaïd, quelqu'un qui connaît la chasse et qui est dans les champs. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas d'a priori négatif sur eux. Quand on lit à ce moment-là le texte, on dit bon, c'est pas grave. Il y a un qui va être un juge de l'intérieur, dans la primitive des choses, dans l'intériorité de la Torah, et un qui va être à l'extérieur. C'est normal. On explique dans la Kabbalah que Akadosh Baruch Hu, il a disséminé des étincelles de Kedusha dans le monde. Et que les gens, les juifs, ils vont là où ils font les mitzvot, ils prélèvent les. D'ailleurs, vous remarquez bien que les juifs, ils arrivent dans un endroit, ils restent un certain temps et après ils partent. Alors nous, on a une illusion d'optique de croire que c'est lié aux événements, c'est lié parce qu'on les a mis dehors, c'est lié parce qu'il y a eu un changement de politique. Non, en vérité, c'est parce qu'ils avaient une certaine mission là-bas de prélever les étincelles divines. Quand ils les ont prélevées les dernières, ils s'en vont. Comment ils prélèvent? En faisant les mitzvot. Quand le juif, il a fini sa mission, il s'en va. Maintenant, il s'en va parce qu'on l'aide à partir avec un coup de pied. Ou il s'en va parce qu'il a fait le choix de partir. En tous les cas, il doit partir. Et cette dimension-là, elle aurait été très bien claire pour nous. Et c'est normal qu'il y ait des juifs qui vont être des juifs de la yeshiva. Et eux qui vont aller chercher l'intérieur de la kedusha dans la Torah. Et d'autres qui vont être à l'extérieur, qui vont être dans le business, qui vont être dans les actions, plus dans l'activité. Et qui vont faire aussi beaucoup de mitzvot. Et ça aurait été normal. Donc on aurait pu très bien imaginer que Yaakov, il aurait produit toute cette partie du judaïsme qui va être ceux qui travaillent sur l'extérieur et qui représentent les juifs dans le monde extérieur, et que Yaakov, lui, il aurait représenté cette partie de la Torah, cette partie du peuple qui est assis dans les tentes et qui étudie la Torah dans la yeshiva, et ça aurait dérangé personne. tellement que ça ne dérange personne que c'est comme ça qu'il pensait Yaakov, Yitzhak. Comme ça, il explique le Malvin, oui, que Yitzhak, il pensait que c'est normal que Yaakov et Sav, ils n'ont pas la même nature, et qu'ils sont adaptés à leur mission, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à quelqu'un les outils dont il a besoin pour sa mission. Donc lui, qui est chez Ish Tzadeh, on traduit homme de champ, mais aujourd'hui on traduit un homme de terrain. Un homme de terrain. C'est-à-dire, il sait comment agir, il sait s'organiser, il sait faire des actions. Il y a des gens, ils sont très forts dans les livres, mais dans la réalité, ils sont perdus. Il y a des gens, ils sont très forts dans la réalité, très efficaces, mais au niveau de la théorie, ils sont légers. Pour ça, Eitav, il s'appelle Asoui. Il dit, c'est pas bien, Eitav, c'est Asoui. Vous savez, il y a des gens qui s'adaptent très très vite dans la réalité. Oui, il a déjà construit, celui-là en trois jours il a créé un magasin. Celui-là, ça fait 10 ans qu'il est en train de réfléchir quel est le fondement de l'économie. Quoi, il va faire un business celui-là? Oui, il est dans la théorie, il a fait le MBA, le MBB, le MBC, le MBA, il a tout fait, oui. Mais il n'a pas encore vendu un produit. Donc tu vois, lui, il est plus agissant, il est plus dans l'acte, et lui, s'il est plus dans la théorie, et c'est pas grave. Et les deux, ils font partie d'un même élément qui s'appellerait Am Israël. Et le Malvin explique que Yitzhak, il pensait que Yaakov, il n'avait pas besoin de sa bénédiction. Mais Esav, il avait besoin de la bénédiction. Alors là, il explique pourquoi. Il y a ce qu'on appelle un principe de Birkat Avraham. Birkat Avraham, c'est quoi? On a vu dans la paracha de Lech Lecha, comment Akadosh Baruch Hu, il a béni Avraham. Il a béni. Ça veut dire que cette bénédiction-là, elle est dans l'âme d'Israël, que tout ce qui est lié à la spiritualité, c'est toujours Akadosh Baruch Hu lui-même qui bénit. Vous avez remarqué que nous, la Torah, quand elle parle des bénédictions, elle bénit toujours sur le matériel, elle bénit pas sur le spirituel. Même dans les brachot de la paracha là-bas, à la fin du Devarim, on bénit que tes troupeaux ils vont être bien, que tes blés ils vont pousser, que tes arbres ils vont pas tomber. La Torah ne dit pas que tu vas monter dans la Torah, que tu vas faire mitzvot. Non. La bénédiction elle est sur le matériel, elle n'est pas sur le spirituel. Pourquoi? Il dit la bénédiction dans le spirituel, elle vient directement d'un de vos. On appelle ça Birkat Avraham. C'est-à-dire, c'est Hachem qui va la donner directement. Par contre, la bracha des Avot, c'est-à-dire la bracha que Yitzhak devait donner, c'était une bracha qui était dans le matériel. Maintenant, lui, comment il regardait? Il regardait que son fils Yaakov, lui, qui est assis dans la tente, il n'a pas ce problème-là de confrontation avec le monde matériel. Donc, il n'a pas besoin d'une bénédiction. Par contre, son fils Yitzhak, Esav, qui lui, de ce côté-là, il lui ressemble le plus. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est vrai qu'il a été considéré comme un corban, qu'il a été offert en sacrifice. Mais d'un autre côté, il a été confronté avec le monde matériel. Et lui, comment il s'appelle? C'est quel Mida, comme il a dit le Rav tout à l'heure? C'est la Gvoura. C'est quoi la Gvoura? C'est la maîtrise. Mais dans la maîtrise, on en a besoin dans le monde matériel, parce qu'on est confronté à des pulsions, à des envies. Il faut se maîtriser. Maintenant, lui, il représente la maîtrise maximum. Vous vous rendez compte que quand Abraham, il a mis Yitzhak sur l'autel, sur le misbéa, pour le tuer, oui. Vous savez, il avait 37 ans, Israël. Et c'est marqué dans le Midrash Tanchuma qu'il a dit, à Abraham, attache-moi, de peur que peut-être que je vais bouger. Pas par peur, parce qu'il avait décidé déjà qu'il voulait mourir, il n'avait pas peur. Mais par réflexe, c'est quand tu mets ta main comme ça, quelqu'un doit bouger. Il a dit, de peur que je vais bouger et que la shrita, elle ne va pas être cachère. Et ouais. Vous comprenez, il a eu peur que la shrita... L'abattage du corban qui est lui, il ne va pas être chéra, donc il a dit attache-moi bien pour pas que je bouge. Imagine le niveau de maîtrise que cet homme-là il peut avoir. Donc lui, en tant que représentant de cette voix, de cette maîtrise, il a devant lui un enfant qui va être confronté avec le monde extérieur. Il dit c'est lui qui a besoin de la bracha. Donc lui, il pense à 100% qu'il doit bénir son fils Esav pour qu'il puisse avoir son rôle dans le monde matériel, de confrontation avec le monde matériel, puisque lui, il va être confronté au matériel parce qu'il doit aller chercher le spirituel qui est caché dans le matériel. Et là, il y a une grande épreuve. Il y a une grande épreuve qui, en voyant les fruits, eh bien, il s'arrête sur les fruits, il ne va pas chercher la kedusha des fruits, il va manger les fruits. À pareil avec l'argent, pareil avec les femmes, que c'est une très grande épreuve d'aller chercher le spirituel à l'intérieur du matériel, parce que le matériel, il est attrayant, il est attirant. Donc lui qui va être confronté, il a besoin de cette... Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide, bon, il traque de convoquer son fils et lui dire, je vais te bénir, va vite chasser des choses que j'aime, ramène-moi. Et moi je vais te bénir. Alors là-bas le Malvin il explique, il dit pourquoi il a dit va chasser. Il aurait pu lui dire va dans le troupeau, prends deux chevreaux, deux moutons, fais les cuire comme je les aime et je vais les manger. Il a dit non. Il a dit pourquoi?
Oui.
Il a dit non. Il a dit pourquoi? Parce que ça, c'est le premier, la première base. C'est que pour que la bracha soit bonne, plus tu as fait d'efforts pour obtenir la bracha, plus la bracha, elle va être forte. Des fois, tu vas voir un rave, tu le rencontres dans le couloir. Des fois, tu vas faire 1000 km pour le voir. Des fois, tu vas rester 5 heures devant la porte debout. Plus tu as fait d'efforts pour avoir la bracha, plus la bracha, elle sera bonne. Pourquoi? Alors, la notion de la bracha, c'est vrai que quand on va voir un tzadik pour recevoir une bracha, comment ça fonctionne la bracha? Ah, tu m'as dit, le rave, il m'a fait une bracha. Non, on a expliqué déjà quelques centaines de fois, mais je peux vous le répéter quand même. C'est que le mot ratson et le mot tsinor, c'est les mêmes lettres. Ratson, c'est la volonté. Et tsinor, c'est un tuyau. En vérité, le tzadik, c'est un tuyau. C'est un tuyau par lequel passe la bracha. Maintenant, la bracha, elle vient d'où? Elle vient d'Hachem. Il dit le Abrabanel, c'est pour ça que le tzadik, il met la main sur la tête de celui qui reçoit la bracha. Parce qu'il est qu'un intermédiaire, exactement comme le courant. Tu mets les doigts dans la prise, le courant, il passe. Maintenant, lui, le tzadik, il est en dessous d'Hachem. Et il est au-dessus de la personne, il met la main sur la tête de la personne, et la bracha d'Hachem, elle passe par lui et rentre dans la personne. Mais il faut, attention, que la personne elle-même qui va recevoir la bracha se prépare à recevoir cette bracha, oui, que celui qui va faire la bracha, il se prépare à faire la bracha. Maintenant, quand il va manger, il va être bien, il va être content, il va être heureux, il va être conforté dans son choix, alors il va faire une bonne bracha. Et l'autre, qui croit vraiment et qui a besoin, il peut recevoir cette bracha. Pour vous dire un exemple, qui est personnel, mes parents, ils connaissaient très très bien Baba Salé. Ils le connaissaient depuis l'Algérie, depuis le Maroc, ils le connaissaient très bien. Et ma grand-mère, un jour, elle a eu une crise de d'hémiplégie, elle était paralysée de la moitié du corps. Et c'était en Israël. Ils ont pris la grand-mère, ils l'ont emmené pour faire une bracha chez Baba Salé. Qu'est-ce qu'il a dit Baba Salé? Écoutez bien. Il a dit, je ne peux pas vous faire la bracha. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que vous me connaissez tellement, qu'au fond, vous n'avez pas la vraie Mouna. D'ailleurs, vous avez été voir tous les médecins avant de venir me voir. Il dit oui, c'est vrai. Donc, comme on est tellement proches, ils se connaissaient depuis qu'ils avaient 10 ans. Ils ont dit, qui c'est Baba Salé? Il est comme nous. Maintenant, il y a un Américain qui vient de là-bas, du fin fond de l'Arkansas, avec un enfant handicapé. Il a tellement la Emouna, l'handicapé, il se lève, il marche. D'ailleurs, c'est lui, la maison de Baba Salé là-bas, elle a été offerte par un Américain qui est venu sur une chaise volante et qui est reparti en marchant. Non, il faut savoir une fois ce qui s'est passé. Et il est venu avec les médecins, un avion privé, c'est un milliardaire, le fils d'un milliardaire, et cet enfant, il n'avait jamais marché de sa vie. Baba Salé, il a demandé qu'est-ce qu'il veut. Ils ont dit, ben, il marche pas. Il a dit, pourquoi? Il a dit, il est handicapé. Il a dit, bon, il s'est tourné, il a enfermé l'enfant, il a dit, lève-toi. Il s'est levé, il a dit, marche, il s'est marché, il a marché. Il n'a jamais marché de sa vie. D'accord? Mais la Emouna, elle est là. L'autre, il connaît tellement, il dit, bon, c'est Baba Salé. C'est Baba Salé. Moi je connais même des gens, hein, tellement ils le connaissaient. Une fois il était malade, on dit bon, on va emmener de l'eau de Baba Salé, il va t'amener. Il a dit pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, il a craché dedans? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le kavod, parce qu'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas mekoubad, ils étaient même kablim, ils ne prenaient pas la grandeur, parce qu'ils ont grandi. Et ils ne peuvent pas comprendre qu'un type qui a grandi à 100 mètres de toi, un il peut être sur la lune et toi tu es encore sous terre. Ils ne comprennent pas la différence. C'est difficile. Il dit la logique elle est que maintenant, il va falloir que Yitzhak, il bénisse quelqu'un, il bénisse Esav. Parce que c'est le choix qu'il a fait. Alors il lui dit, va avec le tzibou, il va avec le tzibou d'Aven, la mitzvah de tzibou d'Aven, va chasser pour moi, ramène-moi à manger, prépare, et après je vais te faire avoir. Rivka, elle a entendu ce qui s'est passé. Deuxième question, pourquoi est-ce que Rivka, elle est obligée d'intervenir? Maintenant, Rivka, quand elle avait ce problème dans le ventre, qu'il y avait les deux bébés qui se battaient, elle a été voir Chef d'Éver là-bas, il a demandé à voir un prophète pour qu'il lui explique ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète? Il lui a dit en prophétie, Vera Yahot Saïd. Le grand, il va servir le petit. Maintenant, l'aîné, c'était qui? C'était Esav. Le plus petit, c'était Yaakov. Donc, elle savait très bien, Rivka, que la fin de l'histoire, ça va être que c'est Yaakov qui va recevoir la bracha. Parce que c'est lui la suite d'Israël. C'est comment elle va imaginer? Parce qu'elle s'était rendue compte des actes de son fils. Comment il va imaginer qu'un tordu comme ça, comme Esav, c'est lui qui va être la suite d'Israël? C'est pas possible. Donc il pose la question dans les commentaires, pourquoi elle s'est sentie obligée d'intervenir? De quoi tu te mêles? Oui? De quoi tu te mêles? Alors, ça on a vu dans la parasha de l'Echlecha, quand c'est marqué que Hachmoukou il a dit à Abraham Avinu, l'Echlecha, oui, on a dit, on pouvait traduire de plusieurs manières. On pouvait dire l'Echlecha, ça veut dire va-t'en. On pouvait dire l'Echlecha, ça veut dire va pour toi. L'Echlecha, va pour toi. Et on avait dit aussi, va vers toi, oui. Maintenant, la question qui se pose, c'est comme ça. Le mazal de quelqu'un, le mazal de quelqu'un, il est devant lui ou il est en lui? Il est en lui ou devant lui? Si on dit qu'il est devant lui, alors on comprend pourquoi on dit celui qui change d'endroit, il change de mazal. Il est devant quoi? Ouais. Et il a dit, c'est ce qu'il dit Rashi. Tu dois aller à Natra, toi tu n'as pas d'enfant ici. Va ailleurs, tu auras des enfants. Ici tu n'as pas de, ton nom il n'est pas connu. Va ailleurs, ton nom il va être connu. Mais ça veut dire quoi ailleurs? Alors il dit le Zohar, une chose incroyable. Il dit quoi l'Ech Lecha? Pourquoi il a demandé d'aller? Il a dit parce qu'il ne peut pas y avoir une Toreroute en bas, en haut, s'il n'y a pas une Toreroute en bas. Si quelqu'un il ne va pas faire un mouvement, il ne va pas bouger quelque chose pour que les choses avancent, même si c'est son mazal, c'est marqué dans son histoire, mais s'il ne bouge pas, il ne se passe rien. C'est bon, non? Donc c'est exactement pareil. Alors, Rivka, elle connaît l'histoire. C'est sûr que c'est Jacob qui va être la suite d'Israël. Et c'est sûr qu'il va recevoir la bracha. Mais elle dit, il faut que je fasse quelque chose. Si elle dit, j'ai entendu ça, c'est faut que je fasse quelque chose. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à son fils, Jacob, tu vas mettre les habits de Esav, tu vas mettre même des peaux de bête pour qu'elle pense que c'est que c'est Esav, parce qu'il y aura des poils, ouais. Tu vas rentrer dans la tente de Israël et tu vas prendre la bracha. Mais Jacob, il a eu peur. Il a dit, attends, qu'est-ce qui va se passer? Moi, au lieu que mon père il me fait une bracha, il va me maudire, parce qu'il va voir que je l'ai menti, premièrement. Deuxièmement, d'accord, mon père, il va toucher que c'est Esav, ouais. Mais quand il va entendre que c'est moi. Il est aveugle, mais il n'est pas sourd. Et en plus, la Torah dit, Akol kol Yaakov, veyadaim yede Esav. Lui-même, il a dit, c'est la voix de Yaakov, mais c'est les mains de Esav. Alors, quand il a entendu que c'est la voix de Yaakov, comment ça se fait qu'il a dit, ah, c'est pas grave, c'est la voix de Yaakov, mais ça va, c'est les mains de Esav. Je veux dire ça. Il sait que c'est Yaakov maintenant. C'est bizarre, non? Ça vous dérangeait pas? Bon, premièrement. Deuxièmement, maintenant, si il veut faire quoi? Il veut se faire passer pour. Il veut se faire passer pour Esav. Pour que Israël, il va bénir qui? Esav. Maintenant, ils disent des commentaires. Mais de toute façon, la bracha, elle va selon la Kavana de celui qui fait la bracha. Donc, si lui, Israël, il bénit Yaakov en pensant que c'était Esav, chez qui elle va aller la bracha? C'est comme si je te dis, tiens, tu me dis, fais-moi un don. Alors, je te dis, oui, bien sûr, je te fais un don au nom de ton père, Khaled, ton copain. Je te fais 1 milliard d'euros, je te dis, au nom de ton copain. Mais c'est le nom qui est marqué sur le chèque. Donc, le nom qui est marqué dans la bracha, c'est quoi? C'est Esav. Donc qui c'est qui va recevoir la bracha? C'est Esav. Alors à quoi elle sert cette histoire? Elle sert à rien. Troisièmement, toute la qualité de Yaakov, c'est le Emet. C'est normal qu'il soit obligé de mentir pour avoir la bracha. Je ne sais pas si vous suivez. Toute cette histoire, elle est bizarre. Rivka qui intervient alors qu'on ne lui a rien demandé. Yaakov qui est le Emet, il est obligé de mentir. Yitzhak qui s'est trompé complètement sur son fils, il croit que c'est un tzadik, en fait c'est un racha. Esav qui est le pourri de l'histoire, et bien le pauvre c'est la première fois qu'on lui ment à lui, parce que lui le pauvre c'est sa bracha, c'est lui le premier. La bracha lui revient, on lui vole la bracha. Sur le voleur, il est volé, le père il s'est trompé, le tzadik il ment, et la mère elle s'occupe de ce qui la regarde pas. Regarde-moi cette histoire. C'est vrai ou non? Donc comment on aurait compris, nous on aurait compris, que Madame Rivka, elle va chez son mari, elle lui dit, écoute papa, sache, je te donne un choc, ton fils, c'est un pourri. Et ça, voilà les photos, voilà les vidéos, voilà les témoignages, c'est un type dangereux. Et ton fils Yaakov, c'est un sadique, et c'est fini, il aurait dit d'accord, ça fait mal au cœur, mais il va venir Yaakov. Non, pourquoi on fichera? Pourquoi on l'a fait compliqué? Vous savez, juste avant la Torah, il nous raconte l'histoire que Esav il a rendu la Bechorah. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Elle dit la Torah qu'il est rentré, il était fatigué. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il avait très faim. Qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé le plat que lui avait préparé Yaakov. Qu'est-ce qu'il avait préparé? Des lentilles. Pourquoi? Pourquoi des lentilles? Il était en deuil. De qui?
D'Abraham.
D'accord? La Torah nous donne un repère. Je te donne un repère. Imagine maintenant, Esav, le jour où il a perdu son grand-père, il a tué, violé, volé. Ça, c'est le jour de la mort de son grand-père. Imagine qu'est-ce qu'il devait faire le samedi soir. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'avec l'angoisse, avec l'agmatnefesh, il était capable de violer, de tuer et de voler. Imagine en pleine forme, avec 3 litres de vodka dans la tête, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il va tuer une ville. Il va massacrer une ville.
Cinq choses, oui, cinq avérot.
Alors attendez maintenant. Est-ce que vous savez qui l'avait tué ce jour-là?
Nimrod.
Nimrod. Et qu'est-ce qui lui a volé? Les habits. Les habits de qui?
De Dame du champ.
Oui, les habits de Caïn. Parce que Nimrod, il avait tué Caïn. Il avait pris ses habits. Et ses habits, il avait hérité de Adam Arishon. Très bien. Il faut se rappeler de ça pour la suite, vous allez voir. Maintenant, Yaakov, Yitzhak, il est convaincu que son fils, Esav, c'est un sadique. Et lui, Esav, il a une capacité extraordinaire de passer pour un sadique. Il pose des questions de sadikim. Ouais, il fait le sadique. Comme il fait le sadique, son père pense qu'il est sadique. C'est super. Alors, il dit, le Zohar, il dit, « La marne elmo ma'asim ra'im shel Esav, oui, n'yéhé Yitzhak avim. » Pourquoi? Comment ça fait que les actes tendus de Esav, ils ont été cachés à Yitzhak, qui était Navi, qui était un prophète? Comment lui, qui était prophète, il ne s'est pas rendu compte que son fils était tendu? Il donne le Zohar une réponse incroyable. Écoutez bien, elle est un peu violente, mais elle est extraordinaire. Il dit, c'est que Akadosh Baruch Hu, il voulait bénir lui-même Yaakov. Mais il est obligé de passer par Yitzhak. Maintenant, pour que Hachem puisse bénir Yaakov en passant par Yitzhak, mais sans passer par la conscience de Yitzhak. Il dit pourquoi là-bas le Zohar. Les varech et Yaakov. Akadosh Baruch Hu rata les varech et Yaakov. Oui. Mais chez l'homme idarté de Yitzhak et là idarté de Kouchab et Rikou. Selon l'esprit, la volonté de Hachem et non pas la volonté de Yitzhak. Ça veut dire quoi? Alors je vous donne un exemple. C'est comme les réseaux téléphoniques. Vous avez par exemple, il y a France Télécom, d'accord? Ou s'il y a un autre nom, bon, en Italie. Maintenant, le réseau de France Télécom, il existe déjà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les autres opérateurs de téléphone, ils ont dit, voilà, on paye une redevance et on passe par le même réseau pour installer notre système. Il y a un réseau qui s'appelle le Da'at de Yitzhak, c'est-à-dire la volonté de Yitzhak. Maintenant, la volonté de Yitzhak, elle peut véhiculer d'autres informations. Elle peut véhiculer d'autres réseaux. Quel réseau? Le réseau d'Hachem. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, que Tsinor, c'est quoi? Tsinor, c'est un tuyau. Et Ratzon, c'est la volonté. Le mot Tsinor et le mot tuyau, c'est le même. Tsinor et Ratzon, c'est la même chose. Donc en vérité, un homme, il véhicule quoi? La volonté d'Hachem. Dans cette volonté d'Hachem, qu'est-ce qu'il met? Il met sa connotation personnelle, son choix personnel à lui, qui était en tant qu'Yitzhak, de bénir Esav. Écoutez bien maintenant. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'Yitzhak, il bénisse Esav, Yaakov. Il ne veut pas. Ouais? Il veut beaucoup bénir lui-même, comme ça il dit d'Abraham. Il veut lui-même bénir Yaakov. Mais il est obligé de passer par Yitzhak. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pour que l'esprit de Yitzhak il soit libre, pour qu'Hachem puisse bénir Yaakov, il fait que Yitzhak il pense à Esav. Et comme Yitzhak il pense à Esav, il ne pense pas à Yaakov, alors la tête de Yitzhak elle est libre pour qu'Hachem il puisse bénir directement Yaakov sans passer par Yitzhak. C'est compliqué, non? C'est bien, ça veut changer la cuisine. Donc ça veut dire quoi? Non, je sais que ça a l'air bizarre comme ça.
Mais pourquoi il dit pas Yitzhak? Pourquoi il dit pas Yitzhak? Pourquoi il ne dit pas Yitzhak?
À qui?
Hachem.
Vous avez raison, c'est une bonne question. Alors les Farchim, ils expliquent comme ça. On sait que quand quelqu'un il est triste, il perd la névoie. Maintenant, si Yitzhak il avait appris que son fils Esav il est rachat, il aurait été triste, il aurait perdu la. Et comme de la bracha, c'est un corps de névoie, c'est une force de prophétie, il n'aurait pas pu ni bénir Esav, ni bénir Yaakov. Donc il fallait que Yitzhak pense que Esav est un tzadik pour qu'il le bénisse avec joie. Et en le bénissant avec joie, il développe un ratson de bracha extraordinaire. Mais ce ratson de bracha, cette volonté de bracha, elle est utilisée par Hachem pour bénir Yaakov, pendant que lui, il traque, il pense à Esav. Ça va? Maintenant, c'est encore plus vicieux, puisqu'on a dit qu'il portait les habits de... Alors, c'est marqué que quand il traque, quand Yaakov, il est rentré dans la tente, alors c'est marqué, il a senti l'air des gadaves. Il a senti l'odeur de ses vêtements, et il a pensé que c'était quoi? C'était, ça sentait l'odeur du Gan Eden. Pourquoi? Parce que ces habits-là, on a dit que c'était les habits de Adam Arishon, qui venaient du Gan Eden. Maintenant, on sait que ces habits, ils avaient une propriété un peu spéciale. C'est pour ça que Esav, il les voulait. Parce que quand il les mettait, il devenait invisible pour pouvoir chasser. C'est quoi, il devenait invisible? C'est magique. Non, en vérité, le Gan Eden, il existe, il est invisible. Les habits du Gan Eden, ils sont comme le Gan Eden. Ils sont invisibles. Maintenant, Ils sont invisibles pour qui? Non, pour les gens qui sont dans le monde matériel. Pour les animaux, pour les hommes. Donc maintenant, ils rendent invisibles les gens qui ne les perçoivent pas. Mais ils rendent visibles les gens qui les perçoivent. Maintenant, il dit le Zohar, quand un tzadik, il porte ses habits-là, il sentait le Gan Eden. Mais quand un racha, il porte ses habits, il ne sentait rien. Exactement comme la Torah. Quand la Torah est enseignée par quelqu'un qui est Rat Shamaïm, tu entends des Hidushim. Quand elle est enseignée par quelqu'un qui n'en a pas, on dirait qu'il nous raconte des histoires. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réa qui est à l'intérieur des choses, il dépend de la personne qui le diffuse. Alors maintenant, quand il traque, il a senti l'odeur du Gan Eden, il pensait que c'était Esav. Donc il était confirmé que son fils Esav est un sadique. Donc il a béni encore avec une plus grande joie. Mais pour que il se trompe Esav, il traque de penser que Esav c'était un sadique, oui, il fallait que Esav il soit extrêmement malin. Vous suivez ou non? Parce que si Esav n'était pas malin, Yitzhak se serait rendu compte que c'était un rachat. S'il s'était rendu compte que c'était un rachat, il aurait voulu bénir lui-même Yaakov. S'il avait béni lui-même Yaakov, Hachem n'aurait pas pu bénir entièrement Yaakov. Donc on avait besoin que Esav soit un malin et un rachat pour qu'Hachem puisse le bénir Yaakov. Ça va? C'est compliqué, non?
Si.
Ouais. Maintenant, pour que il se trompe Yitzhak, il fallait que Esav, que Yaakov, il porte les habits de Esav. Mais pour que Israël, que Yaakov, il porte les habits de Esav, il fallait que Esav, il tue Nimrod. S'il avait tué quelqu'un d'autre, ça aurait pas marché. Mais il fallait que Nimrod, il tue Caïn. Sinon, ça aurait pas marché. Mais comment il a tué Caïn? Parce qu'il s'est trompé, il a pris pour un animal. Vous voyez le Midrash, oui? Il s'est trompé, il a pris pour un animal, il l'a tué. Ça veut dire quoi? Ça veut, et pour que Caïn ait ces habits-là, il fallait qu'il tue Evel. Parce que sinon, c'est Evel qui aurait hérité des habits. Ça va? Ça veut dire qu'il fallait que Evel y meure pour que Yitzhak y bénisse Yaakov. En pensant que c'était Esav.
Comme le dit Sam.
Complicado.
Même chose que les Mitzvahs.
Tout.
Quel état de Mitzvahs, même chose.
Vous avez compris cette logique ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous calculez la chaîne des choses, ça devient très compliqué. Je vous avais déjà dit une fois, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Quand tu vois que le bien, il amène le mal, tu vas appeler ça du mal. Comprenez ou non? C'est difficile. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Toi, avec les malheurs que tu as eus, tu es devenu intelligent. Toi, avec les bonheurs que tu as eus, tu es devenu idiot. Tu sais plus. Toi, avec la misère, tu as connu la valeur de l'argent. Maintenant, tes enfants, tu les as gâtés, ils sont pourris gâtés. Alors tu dis, alors quoi? Alors la misère, c'était bien. Toi, tu as eu des professeurs durs, ils t'ont structuré l'esprit. Maintenant, le professeur, il est cool, il est rigolo, tu travailles quand tu travailles, tu fais quand tu fais. Et le gosse, c'est un analphabète, à 19 ans, il ne sait pas lire. Alors, tu dis alors, les professeurs durs, ils nous ont fait du bien. Les professeurs gentils, ils nous ont tordus. Alors, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? C'est un problème. Ça, quand je vous dis en rigolant, c'est pas rigolo. Quand on dit après la pluie, vient le beau temps. Alors, les gens disent c'est vrai, après la pluie, ils sont contents. Mais après le beau temps, et vient la pluie. Donc pourquoi les gens ils sont contents quand il fait beau? Ils devraient s'angoisser, puisqu'il va pleuvoir. Et quand il pleut, ils devraient être contents, puisqu'il va, voilà, il va y avoir le beau temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la vie, c'est un cycle. Maintenant, c'est pareil. Quand nous, on regarde l'histoire, plus on recule dans l'histoire, plus on va avoir du mal à savoir c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, puisqu'à la finale, elle amène du bien. C'est exactement pareil, oui. Que la Kadosh Baruch Hu, il met en place des situations qui sont très complexes, et que chacun, il a une entité à l'intérieur qui n'a rien à voir avec l'autre, et pourtant qui est nécessaire. Parce qu'encore une fois, nous, maintenant, on a un autre problème. C'est pas seulement qu'on doit être interpellé par les choses, de dire, enfin, pourquoi est-ce que l'Israël intervient? Mais comment ça se fait qu'Israël est trompé? Mais pourquoi est-ce que Yaakov est obligé de mentir? Non, il faut passer à un autre état, un autre niveau, c'est quoi? C'est que non seulement, c'est pas anormal, mais en plus, c'est nécessaire. Vous me suivez ou non? C'est nécessaire. Donc maintenant, tu dois faire le Cheshbon. Oui, c'est ça, Gam Zul et Tova. Gam Zul et Tova. Cet événement-là qui t'étonne, cet événement qui te dérange, non seulement qu'il n'est pas mauvais, mais en plus il est bon. Et c'est même pas qu'il est mauvais pour amener du bien, il est bon lui-même. Allez, vas-y, casse-toi la tête maintenant, cherche. Va trouver pourquoi c'est nécessaire, c'est la logique, c'est nécessaire. C'est ça que je vous avais expliqué avec le phénomène de la pluie. J'ai dit que la pluie, il y a 2 ou 3 semaines, vous rappelez la pluie ou non? En fait,
oui.
La pluie, ça mouille.
Si,
ah, vous avez dit bien. Ah, je suis content,
je suis
sûr. Vous rappelez-vous? Ah, extraordinaire. C'est d'accepter que la pluie, ça mouille. Non, je sais qu'il y a des absents qui ne connaissent pas les leçons, mais quand il pleut, on est mouillé. Le costume, il est mouillé. La tête, est mouillée. On a oublié le parapluie. Toujours, on oublie le parapluie. Ouais. Alors, puisqu'on sait que quand il pleut, on est mouillé, pourquoi on dit « Oh, il pleut !» C'est ça notre problème. Oui. Pourquoi les enfants, ils nous font des problèmes? Mais c'est leur âge. Pourquoi la femme, elle est comme ça? Mais c'est une femme. Pourquoi mon mari, est comme ça? Mais c'est un mari. Pourquoi mes parents, eh ben, c'est des parents. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait toute notre vie? La moitié de notre vie, on s'étonne, et l'autre moitié, on reproche. C'est le contraire. Numéro 1, tu acceptes. Ouais, tu dis, Minachari, c'est à Dieu qui l'a envoyé. Numéro 2, j'accepte, c'est nécessaire. Donc je vais prendre l'énergie positive qu'il y a dans cet événement. D'accord? Donc nous maintenant, on doit relire toute l'histoire en disant, ouais, c'était bien que Yitzhak se trompe. On veut qu'il se trompe, vous n'avez pas compris. On ne veut pas qu'il croie que c'est Esav. On ne veut pas qu'il comprenne que c'est que Esav est un rachat. On veut qu'il croie que Esav est un sadique. Et on veut qu'il bénisse Yaakov en se trompant. Pourquoi? Ouais. On a dit pourquoi? Parce que quand Rivka, elle a entendu que lui, Yaakov, que Yitzhak, il avait partagé, il avait dit, bah, ça va être le rôle de Esav, ça va être le rôle de Yaakov. Que Yaakov, il va être dans la Ruhaniout, et que Ruhaniout chez les Ruhaniout, et Yitzhak, il va être Ruhaniout chez les Gashmiout. Comme ça, il avait compris qu'il doit aller chercher le spirituel dans le matériel. Mais Rivka, il a vu qu'il n'avait pas joué ce rôle-là. Comment ça devait se passer? Il y a Shevet Lévi, et les Kohanim et les Lévim, c'est-à-dire tous ceux qui se consacrent entièrement pour la Torah. Après, il y a Israël, les Juifs normaux comme nous, que nous, on est au service des Tzadikim, qui s'occupent de la Torah. Et après, il y a les Goïm. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, mais Israël? Il est entre le Goï, il protège du Goï, et il aide le Tzadik. Vous suivez ou non? Exactement. Et le Shevet Lévi, lui, il amène cette Rouhanim, cette spiritualité, que le Israël, il a besoin. Donc, le Israël, il est content de servir le Tzadik. Et le tzaddik, il est content d'être la spiritualité d'Israël. Et le goy, il profite de la lumière du Ham Israël qui est développé dans le monde. Ça, c'est le projet. Donc, Esav, il devait jouer le rôle d'Israël. Yaakov, il devait jouer le rôle du Shevet Lévi. Et les goyim, ils devaient être à la place. Et ça allait très bien. Mais, Rivka, elle a dit non, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que quand on va donner la gashmiut, on va donner la matérialité à Esav, il ne va pas la donner à son frère, il va la garder pour lui. Il ne va pas faire shoot foot. Il a dit, mais il s'en fout complètement de la spiritualité, lui. Il s'en fiche complètement de lui. Déjà, il a jeté. Mais en jetant la Bechora, il a jeté la bracha avec. Il ne voulait pas. Donc, comme il a refusé, c'était plus possible. Et elle a vu ce caractère-là. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, il faut que Yaakov intervienne. Mais on a dit, c'est un problème, parce que ça va obliger Yaakov à aller contre sa nature. Sa nature, c'est pas de mentir. Sa nature, c'est pas de tricher. Va t'itène et mettre les Yaakov. T'as pas trouvé un autre moyen pour avoir la bracha que de mentir. Quand tu crois que tu vas aller chez un sadique, tu vas mentir, tu vas avoir la bracha. Mais on va dire, alors qu'est-ce que tu imagines toi, Rivka? Qu'est-ce que tu penses toi, Yaakov? D'accord, et ça, il sera qu'il s'est trompé. Mais Dieu, il dort pas. Dieu, il dort pas. Alors ça veut dire quoi maintenant? Tu vas obtenir une bracha par un mensonge? Mais quelle est la vamina que tu peux avoir une bracha par un mensonge? Pour qui? Tu mens à qui? Donc on a dit que c'était nécessaire. Maintenant, encore une fois, c'était nécessaire que Yaakov il reçoit la bracha de cette manière. Pourquoi? Ben, il faut comprendre une chose. On a expliqué déjà plusieurs fois que Yaakov, il existe deux fois. C'est Yaakov, c'est Israël. Maintenant, Yaakov, c'est le prat, et Israël, c'est le clan. Nous, on s'appelle le clan Israël. On s'appelle Béni Israël. On ne s'appelle pas Béni Yaakov. Maintenant, Yaakov, il y a un sefer qui s'appelle le Bet Yaakov, il explique Yaakov, ça s'écrit Yud Ekev. Yud Ekev, il n'y a pas de vav dans Yaakov, d'accord? Yud Ekev. Ekev, c'est quoi? C'est le talent. Et Yud, c'est quoi? C'est la Chokma. Parce qu'on dit que Yaakov, il était malé Chokma, il était rempli de Chokma. Où est-ce qu'elle est normalement la racine de la Chokma? Dans la tête. De la tête jusqu'au Ekev, jusqu'au pied. Ça, c'est Yaakov en vertical. Yaakov en vertical, il est rempli de Chokma à la top. Mais Yaakov en horizontal, c'est quoi Yaakov en horizontal? Maintenant, tu prends Yaakov, tu l'allonges. Yaakov en horizontal, il démarre à l'époque où il a vécu, il se termine où? À la fin des temps. Jusqu'à nous. Maintenant, le Ekev de Yaakov, c'est quoi le talent de Yaakov? C'est Ekveta de Meshicha. C'est la fin des temps. La fin des temps de Yaakov, c'est maintenant. Il dit maintenant, Yaakov, lui, il avait tellement de Chokhma que, en fait, il a inscrit dans ses gènes, et dans sa Neshama, et dans sa génétique,
qui aime la Torah. C'est-à-dire que si aujourd'hui on arrive encore à étudier la Torah, les gens croient parce qu'il y a une chaîne de la Torah, parce qu'il y a une transmission, parce qu'on est très bon en communication, n'a aucun rapport. Ça s'appelle, c'est ça, Sroutavol. Sroutavol, ça veut dire que combien tu as imprimé chez toi, alors c'est ça qui va s'inscrire chez tes enfants, à tes enfants. Après, c'est une question de concentration. C'est comme si tu prends un sirop, ouais, tu dis, il est tellement concentré que même quand je le dilue 1 million de fois, le goût, il est fort. Maintenant, si aujourd'hui, d'accord, après 2000 générations, le goût de la Torah, il est fort, imagine-toi chez Yaakov comment il devait être fort. Parce que c'est que de la dilution. C'est que de la dilution, que de la dilution, que de la dilution. Ça, c'est, ça s'appelle Frut à Torah, Frut à Vot. Donc, qu'est-ce qui se passe? Brit à Vot, Brit Torah. Qu'est-ce qui se passe? Que Yaakov, maintenant, il est devant Yitzhak. Il va lui recevoir une bracha de Yitzhak. D'accord? Et quelle bracha il va recevoir? Une bracha dans la Gashmiut. On a dit, mais Yaakov, il n'a pas besoin de la bracha dans la Gashmiut. Lui, il a besoin de la bracha dans la Ruchaniut. Or, la bracha dans la Ruchaniut, il la reçoit directement de la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a besoin de cette bracha de Gashmiut? Alors, justement, il s'appelle le parallèle avec la paracha de Vayetse. Et ça, c'est le Sfat Emet qui posait la question. Il dit, puisque c'est marqué que Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim. Yaakov, c'est un homme intègre qui est assis dans la tente. Donc, Yaakov, il ne sort pas. Il ne sort pas. Donc, comment la Torah dit Vayetse Yaakov? Pourquoi il sort Yaakov? Il ne sort pas. Jamais il sort. Pourquoi il est sorti? Qui c'est qui sort? Esav. Esav, il est Ishsadé. Ça, c'est l'homme qui travaille à l'extérieur, c'est Esav. Yaakov, lui, travaille à l'intérieur. Maintenant, pourquoi Yaakov est obligé de sortir? Et pourquoi faire en plus pour aller se marier? Pour aller rencontrer la femme qu'il devait? On a dit, maintenant, d'après le scénario qu'il avait envisagé, Yitzhak, que quoi? Que la moitié de ses descendants, ça va être les enfants de Esav, et la moitié de ses descendants, ça va être les enfants de Yaakov. Mais étant donné que Esav, il a renoncé à son rôle spirituel, d'accord? Donc maintenant, en même temps qu'il a renoncé, il a renoncé à la Bechora, il a renoncé à la Bracha, il a aussi renoncé à la femme qu'il devait épouser. Parce que normalement, il devait épouser Léa et avoir 6 enfants qui auraient été les descendants de Avraham, Yitzhak et de Esav, et qui auraient été les 6 tribus d'Israël qui se seraient occupées pour l'extérieur, pour travailler à l'extérieur. Yaakov, lui, devait avoir Marie et Rachel et avoir 6. Maintenant, puisque lui, Esav, il a renoncé à son rôle, donc maintenant, Yaakov, il est obligé de prendre et le rôle de Yaakov et le rôle de Esav. Donc, Vayetse, c'est-à-dire que maintenant, il est obligé de travailler à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pour ça qu'il a besoin d'une formation chez Laban. Parce que Laban, il représente quoi? La galoute. Et il dit le Zohar que pourquoi est-ce que Yaakov était obligé d'aller en galoute? C'est parce que toutes les prières qu'il a fait quand il était chez Laban, c'est ce qui a permis au béni Israël de traverser les différentes galouillottes sans avoir à subir l'influence des goïms. Ça va? Encore une fois, mais cette influence-là, elle devait être pour Esav, elle devait pas être pour Yaakov. Mais comme Yaakov, Esav, il a renoncé à son rôle, donc maintenant que Yaakov, il a aussi un rôle à jouer dans la Gashmiut, il a besoin de la bracha dans la Gashmiut, comme la bracha qu'il a besoin dans la Ruchaniut. Ben dans la bracha de la Ruchaniut, on a dit, il le reçoit directement de Akadosh Baruch Hu. Mais la bracha dans la Gashmiut, il est obligé de la recevoir de son père et de sa mère. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant qu'il joue les deux rôles, alors maintenant on a un problème. Vous savez, on a dit qu'elle avait vu en prophétie, Rivka, que le grand, il allait servir le petit. Maintenant, qu'est-ce qui définit le grand? Eh bien, le grand, tu dis, parce que c'est celui qui est sorti le premier. Ou non, tu dis non, le grand, c'est quoi? C'est celui qui est le premier-né. Maintenant, quand Yaakov, il a vendu la... quand Esav, il a vendu la Bechora, le droit d'aînesse, à Yaakov. Donc, qui c'est qui est devenu l'aîné? Yaakov. Donc, maintenant, qui c'est qui doit servir le grand? Ben non, c'est Yaakov qui doit servir Esav maintenant. Ben, il faut suivre l'histoire. Oui. Comment ça se fait qu'il a acheté la Bechora pour les avantages, il l'a pas acheté pour les inconvénients? Tu peux faire Kinyan la Hatsayin, toi? Tu peux acheter à moitié. Ça y est, c'est le premier-né. Ça, c'est une des taranot qu'il avait, et ça, après, chez son père, quand il s'est rendu compte qu'on lui a vendu la bracha. Oui. Mais gardez ça pour après, parce que maintenant, il faut faire le lien. Donc maintenant, on en a dit. Puisque Yaakov, il a existé jusqu'à la fin des temps, il faut que maintenant, que Yitzhak, il bénisse Yaakov. Maintenant, pourquoi on a dit, pourquoi est-ce qu'il fallait que la bracha de Yaakov, elle vienne de manière tordue? On a dit que c'était pour libérer la tête de Yitzhak, pour qu'il puisse bénir Yaakov en pensant que c'était Esav. Comme ça, Hachem, il peut bénir directement Yaakov. Vous vous rappelez ça? Ça va ou non? Maintenant, pourquoi on avait quand même besoin que Esav soit dans la chose. Parce qu'encore une fois, on aurait pu simplifier, que Dieu leur a envoyé une prophétie à Yitzhak, qu'il aurait compris que son fils était un rachat, et c'est tout. Ouais. Alors la chose, elle est simple. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il a besoin, attention, il a besoin que Esav reçoive une bracha. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand la bracha que Yitzhak devait donner à Esav, c'était quoi? C'est-à-dire, toi, toute ta bracha, tu vas la recevoir de Yaakov. Maintenant, ton rôle à toi, c'est quoi? C'est de donner la Gashmiut à Yaakov pour que Yaakov puisse jouer son rôle dans la Rouhaniut. Mais il avait dit Altnai, à condition. Quand Yaakov il se conduira bien dans la Rouhaniut, dans le spirituel, toi, tu auras une bracha et tu devras lui donner une part. Mais quand Yaakov il se conduira mal dans la spiritualité, toi, en tant que Esav, tu devras lui donner la Terecha. C'est-à-dire le rôle de Esav en tant que Esav, en tant que Amalek, en tant que Aman, en tant que Achashverosh, en tant que Titus, en tant que Hitler, en tant que Saddam Hussein, toute cette chaîne-là de gens qui font souffrir le Ham Israël, oui, c'est un rôle qu'ils ont à jouer, qui est déterminé par quoi? Par le partage du rôle de Yaakov et de Esav. Attention. Donc il faut bien comprendre, attention, ça devient difficile. Ça veut dire que Esav, il a un rôle à jouer, comme il dit le. Puisque Amalek, c'est un descendant de Esav. Esav, il a un rôle à jouer, que c'est marqué dans le Zohar, que Yaakov, que les bénis Israël, c'est comme les moutons, et que quand les moutons, ils s'écartent du troupeau, le berger, il envoie le chien, qui est Amalek, pour les ramener dans le troupeau. Ça s'appelle l'antisémitisme. C'est pour ça que l'antisémitisme n'a aucune logique rationnelle. La haine que les goyim ont des juifs n'a pas de logique rationnelle. Elle n'est pas historique, puisqu'il y a des pays où il n'y a jamais eu de juifs, et les goyim, ils ont la haine des juifs. Elle n'est pas logique. Elle est même fausse. Alors, regardez par exemple, si vous lisez les protocoles de Sion, bon, je ne pense pas que vous les avez lus, mais là-bas on va vous expliquer que le peuple juif est un peuple de pourriture dont le but est de prendre toute la terre entière, de devenir les envahisseurs du monde, de spolier et de voler et de détruire toutes les ressources de richesse de chaque pays. D'accord? Ça va. Alors, je vous ai expliqué le jour un principe en psychologie qui est intéressant, c'est que quand tu veux savoir les reproches que quelqu'un se fait à lui-même, tu écoutes les reproches qu'il te fait à toi. Vous vous rappelez de ça ou non? Ça s'appelle de la réverbération existentielle. Quand quelqu'un il a une qualité, ça me dérange. Donc comme ça me dérange, ça révèle chez moi que j'ai envie de le reprocher. Alors pourquoi je l'ai envie de reprocher le contraire de ce qu'il a? Parce qu'en fait, moi, ce que lui, le contraire de ce qu'il a, moi je le vis. Donc sa qualité chez moi, elle va exacerber chez moi un défaut. Ce défaut-là, comme je n'arrive pas à le supporter chez moi, je l'accuse de l'autre. Donc j'accuse l'autre de ce que je suis au fond. Ça va? Ça va pour vous? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les nazis? Depuis qu'ils ont été créés, leur seul but c'était quoi? De conquérir le monde entier. Qui voulait faire quoi? Un grand empire. Pour profiter au maximum. De voler tous les biens, de voler tout l'or, de voler tout l'argent. Quand ils sont rentrés en France, Göring, il a dit, maintenant le grand pillage va commencer. Ça veut dire qu'il y avait tout un système d'exploitation économique du monde, mais organisé pour. Ça veut dire qu'ils avaient des personnes qui prenaient toutes les œuvres d'art, la réserve d'or, après les exploitations humaines, c'est-à-dire faire travailler les gens dans leur pays à eux pour ne pas payer les salaires, d'aller chercher les ressources, c'est-à-dire agricoles, les ressources industrielles de chaque pays. Vous savez que la guerre, elle a été alimentée aux trois quarts par l'argent des pays qui étaient conquis. C'est-à-dire que les Français, ils ont payé pour que les Allemands ils continuent à faire la guerre, comme les Belges, comme tout le monde. Donc, ça veut dire quoi? Pire encore, quel peuple a été assez débile pour aller prendre la peau des gens pour faire des abat-jours ou des portefeuilles, ouais, de prendre la graisse pour faire des savons, de prendre les dents pour faire de l'or. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris les déportés d'Auschwitz, ils les ont ramenés à Varsovie, après qu'ils ont détruit la ville. Ils les ont obligés à déterrer les cadavres qui étaient enterrés déjà avant la guerre, pour aller prendre les dents en or qu'il y avait sur les cadavres. Alors moi je pose une question, moi. D'après la définition qu'ils ont donnée des juifs, qui sont les juifs? En fin de compte, les nazis, c'est les juifs. D'après leur définition des juifs, ouais, c'est exactement les nazis. Ça va? Donc ce que tu reproches à l'autre, c'est ce que tu lui envoies. Ça va? Maintenant, dans toute cette pourriture de cupidité, de volonté de détruire et de tuer et de casser Oui. Il faut dire la vérité, ils ont quand même eu une certaine réussite. C'est vrai, non? Bechol, Dor, Bador, Omdir, Alecha, ouais. Dans chaque génération, il y a des pourris qui se lèvent. Ça veut dire quoi? Ça devient une race, c'est un truc qui ne se développe très bien. Oui? Alors moi, je pose une question qui est violente. Écoutez bien. Est-ce que cette réussite de Esav, qui a un rôle à jouer dans Am Israël, elle avait besoin d'une bracha? Est-ce que le rôle de Esav, oui, en tant que l'imitateur de Yaakov, il avait besoin d'une bracha? Pour jouer son rôle de Esav, il avait besoin d'une bracha. Mais il ne pouvait pas avoir une bracha directe, parce que sinon, Rabotai, on est foutu. Il fallait qu'il ait une bracha indirecte. C'est que quand il traque, il a béni Yaakov en pensant que c'était Esav. Il y a quand même une facette de Esav qui a reçu la bracha, par erreur. Cette facette de bracha, elle était nécessaire. C'est pour ça que j'avais raconté à Fourim, rappelez à Fourim, quand on dit, le gars de Midna, il dit qu'on n'a pas se saouler, mais on doit faire les calculs, vous rappelez ça? Oui ou non? Personne ne révise, mais c'est quoi? Bien sûr, c'est après. Mais normalement, il n'y a plus de questions après. Mais, enlevez l'émotionnel, gardez le rationnel, vous avez vu, il n'y a plus de questions. Donc c'est quoi la logique? Le gars de Midna, il dit que quand c'est marqué dans le Shkhana, « Chayav Adam les Vassoumé, mais pour y a un homme, il est obligé de se saouler. » C'est pas qu'il doit boire les marloquettes, est-ce que c'est 6 litres de vodka, ou 24 litres de vin, ou 13 litres de whisky? Non. Il dit, tu bois pas un verre. Tu bois pas un verre. Mais tu réfléchis. Tu réfléchis. Pourquoi? Parce que c'est qu'il faut, un homme, il doit se saouler au point qu'il va dire « Arour Mordechai et Barour Aman ». Mais vous savez que c'est marqué dans le Zohar qu'un homme, il doit dire 3 fois le jour de Purim, il doit dire Arour Mordechai et Baruch Aman. Il faut le dire. Je dis, mais enfin, je ne peux pas dire Arour Mordechai. Je dis Arour Aman. Pourquoi je vais dire Arour Mordechai? Écoutez bien cela. Il a dit, parce que quand il fait le calcul, tu dis, tu sais, Baruch Hashem, que Mordechai est venu avec Esther et qu'ils ont fait ce miracle extraordinaire et que Mordechai, il a été contre le Sanhedrin et il a obligé les gens à faire teshuvah et il a organisé des ta'aniyot et des prières collectives, il a été dans les écoles, il a dit aux enfants de prier, et il a fait des drachot et les gens ont fait teshuvah. Hazak Mordechai, ça va. Aman. Ça va. Mais quand tu regardes le travail de Aman, qu'il a réussi à organiser, que dans 127 pays en même temps, les gens, ils ont une menace mortelle qui les a réveillés, tu te demandes qui c'est qui a travaillé le mieux en fin de compte? C'est Aman ou Mordechai? C'est compliqué. Comprenons. Alors tu vas dire Baruch Aman ou tu vas dire Aaron Mordechai? C'est-à-dire que quand tu regardes le mal, comment il est bien fait, tu dis Baruch le mal. Quand tu regardes le bien, qu'il n'est pas à 100%, puisque pourquoi on appelait Mordechai à Yehudi? Parce que les autres, en Bouddhaï, ça ne se voyait pas qu'il était juif, c'est-à-dire qu'il y avait un niveau d'assimilation très grave à l'époque, ouais. La majorité du Sanhedrin, elle n'était pas d'accord avec lui. Les Chachamim, ils ont été d'accord d'aller manger au repas d'Achashverosh, même si c'était cachère, il leur a fait clat de cachère, mais il les a servis avec les kélim de Beth Amikdash, c'était Hilul Hashem. Mordechai, il a dit, vaut mieux mourir que d'aller manger ces repas. Eux, ils ont accepté, oui. Et d'un autre côté, la Gemara, elle dit, Kimou Mashé Kiblou, c'est-à-dire à pourri, il y a été Shuvah tellement grand. Que ce qu'ils n'ont pas réussi à faire le jour du Matan Torah, ils l'ont fait à Purim. Alors il faut dire merci monsieur Aman d'avoir réveillé Am Israël. Ça va? Ça se complique, hein? Alors je te dis moi, que pour réussir à jouer ce rôle, alors qu'il n'a aucun kiyum, il n'a rien, Aman, en mitzut lara, il fallait qu'il ait une bracha de Yitzhak. Maintenant cette bracha là, on a dit qu'elle est superficielle. Parce qu'il l'a eu Betaout, puisqu'il croyait qu'il était tzadik, d'accord? Donc on va dire qu'il a une bracha Bechitsuniut. Pourquoi il a une bracha Bechitsuniut? Tu veux que je te dise pourquoi? Regarde la médecine, c'est facile. Dis-moi, les Grecs qui ont fait tellement de mal, qu'est-ce qui reste? Rien, Parthénon. Ouais. Les Romains qui ont fait tellement de mal, qu'est-ce qui reste? Rien du tout. La Perse. Tu dis la Perse, on est contre la Perse, des millions et des millions d'hommes, des millions. Qu'est-ce qui reste? 3 pierres. Genre, ici, Babylone, tu trouves 3 pierres et du sable. En kioum, rien. Il ne reste plus rien. Vous voyez ou non? Ça prouve que la bracha, elle était dans la Hesuniout. Mais si Yitzhak, il avait béni directement Esav, mais on serait foutu. Comment on va avoir un kioum devant Esav qui est béni? Mais il est béni Betaout, que dans la Hesuniout. Qui c'est qui a reçu la majorité de la bracha dans le Hesen? C'est Yaakov. Qui c'est qui a reçu la bracha dans le Levouche? C'est
Esav. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est béni que dans le levouche. Le levouche, c'est les habits de Esav. Attention. Les habits de Esav, quand on regarde du côté de Yaakov, s'appellent l'extériorité. Que c'était nécessaire que même dans l'extériorité, c'est-à-dire dans la Gashmiut, ils reçoivent une bracha Yaakov. Mais quand on regarde les habits de Esav, en ce qui concerne Esav, ça veut dire que Esav, il va recevoir une bracha que dans la périphérie. Mais jamais il va toucher l'essence d'Israël. C'est pour ça que malgré les pogroms, malgré les angoisses, malgré les mœurs, et malgré la Emouna, elle est restée. C'est-à-dire qu'Esav, il a touché l'extérieur. Il a touché le corps, ouais. Il n'a pas touché la Neshama. Leur âme Israël, il est resté leur âme Israël. C'est pas normal qu'un peuple, pendant 2000 ans, il est persécuté, et qu'il continue à faire Kaddish, et à mettre des filines, et à manger Kacher. C'est pas normal. Vous auriez dû dire, c'est bon, ça suffit. Là-bas, on va faire la paix avec les Goyim, on va être bien avec eux, il n'y a plus de problème de judaïsme, puisqu'il n'y a plus de judaïsme. Non, il y a encore des fous qui prennent une synagogue, qui écrivent des Sefer Torah, qui achètent des téfilines, il y a encore des cinglés comme ça. Donc ça prouve que cette bracha-là, elle est forte, elle est très forte, plus forte que le temps, elle est plus forte que les événements, elle est plus forte que les personnes. D'accord? Après, ça va encore un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand Yaakov, il a béni Esav en pensant que c'était... il a béni Yaakov en pensant que c'était Esav. D'accord? On a dit, mais pourquoi? Parce qu'il a senti Réar Begadav. Réar Begadav, on a dit, c'est l'odeur des habits. Vous savez, le Midrash, il pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka, pour tromper Yitzhak? Elle lui a mis des peaux de bête. Quelle peau? Ezim. C'est ce serait Ezim, la chèvre. Il n'y a pas une bête qui pue plus que la chèvre. Maintenant, vous avez remarqué, elle lui a mis des peaux de bête sur le cou et sur les mains, au cas où son père va le toucher. Ouais, au cas où son père va le toucher, il va toucher la peau. Il va dire, c'est poilu. C'est Esav. D'accord? Mais les habits, eux, c'était les habits de Esav. Maintenant, il a senti quoi, Yitzhak? L'odeur des habits ou l'odeur des peaux? C'est marqué dans le texte. Des gadaves. Il a senti les habits de Esav. Ouais, les habits de Esav. Malgré l'odeur de la peau. Ouais. En même temps, ça veut dire une chose très, très, très grave. Ekev, on a dit Ekev, c'est quoi? C'est la fin des temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il a senti, Yitzhak? Il a senti l'odeur des habits de Esav. On a dit que les habits de Esav, c'est quoi? C'est les habits qui viennent du Gan Eden. Or, ces habits, ils ont une capacité que quand ils sont portés par un tzadik, ils sentent le Gan Eden, mais quand ils sont portés par un rachat, ils sentent rien. Ils sentent rien. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est que l'essentiel est révélé par les gens essentiels. Mais le superficiel n'est pas révélé par les gens essentiels. Par les gens superficiels. L'essentiel n'est pas révélé par les gens superficiels. Maintenant, lui, il croit que quoi? Il croit que c'est Esav. C'est pour ça que ça l'a conforté de son côté. Mais d'un autre côté, après, qu'est-ce qui se passe? Quand Yaakov il reçoit la bracha et il s'en va, tout de suite, la Torah nous raconte, tout de suite, Esav il arrive. Alors, pareil là-bas, le Zohar, il demande, le Malbim, il explique, pourquoi est-ce qu'on avait besoin que juste après qu'il a fini la bracha, il arrive. Il dit pourquoi? Il fallait absolument que Yitzhak, il se rende. Alors, il fallait que Yitzhak bénisse Yaakov, ensuite que Yaakov il sorte, et que Esav il vient et il révèle à Yitzhak que c'était pas lui, ouais, et que quand même Yitzhak il dit Gam Baruchiyé. Il confirme la bénédiction, malgré que, entre temps, il s'est rendu compte qu'on l'a trompé. D'accord? Alors, ici il y a un chidouche, et comme ça l'explique le Rav Dessler, comment ça se fait qu'Yitzhak ne s'est pas énervé? Premièrement, il s'est rendu compte qu'on l'a trompé. Qui c'est qui l'a trompé? Le petit tzaddik. Monsieur, le petit tzaddik Yaakov Avinu, toujours dans les livres, menteur! Tu te fais passer pour ton frère! Il aurait dû le maudire. Lui-même, la déception, qu'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé pendant 30 ans sur son fils. Il croyait que son fils Esav c'était un rachat, un sadique, il se rend compte qu'il est rachat. Donc cet énervement et la décision, il aurait dû maudire. Où est-ce qu'il va trouver la force, Yitzhak, de switcher, ouais, direct, et dire Gambaourie? C'est énorme. C'est énorme. C'est comme si toi, tu travailles pendant 35 ans, tu ramasses 54 millions de dollars. Puis un jour, tu dis, voilà, je viens pour solder le compte. Il dit, ah non, monsieur, tout l'argent est au nom de votre beau-frère. C'est un jeu d'écriture. Il a touché l'ordinateur, le jour du contrat qu'il avait signé il y a 23 ans, et il a fait passer tout l'argent, tous les mois, à son nom. Et vous, vous avez Wello. Tu connais beaucoup de juifs qui vont dire Mina Shamaim, Gamzou Letova, Meshi Kapara. Il va dire non, d'abord je le tue. Après je me tue. Comme ça les deux, on va faire le din Torah là-haut. Qui c'est qui peut se rendre compte qu'il s'est trompé pendant 30 ans et switcher en 3 secondes et dire je me suis trompé et c'est pas grave et c'est bien que Yaakov et ça veut dire que je m'étais trompé dans le calcul qu'en vérité ça c'est un rachat et qu'en vérité c'est Yaakov qui doit recevoir, ça veut dire qu'il doit aussi recevoir la bracha dans la Gashmiyut et c'est normal parce qu'il aura besoin de la bracha. Qui c'est qui peut faire une capacité extraordinaire comme ça? Il dit c'est que Yitzhak Avinu. Pourquoi? Parce que quand on s'appelle cette mida là, ça s'appelle mida d'Agvura. Un peu tel, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour que Yaakov reçoive la bracha, il fallait que Yitzhak il ait mida d'Agvura. Maintenant, si de vous à moi, allez, on est entre juifs, d'accord, on ne se gêne pas. Si la Torah nous avait dit la qualité de Avraham, c'est la Gvura, et la qualité de Yitzhak, c'est le Chesed, ça nous aurait dérangé, nous? N'ayez pas peur, dites-le Emet.
Non.
On aurait dit, bon, Nahinami. Ouais. Mais si la qualité d'Avraham, c'était le Chesed, jamais le Chesed, il aura accepté une déception pareille. Donc, Yitzhak, il aurait maudit Yaakov. Donc il fallait que Yitzhak il développe cette mida de din pour être capable d'avoir la force au moment où il entend le contraire de ce qu'il a toujours pensé, de ne pas maudire son fils au lieu de bénir. Oh là là, c'est compliqué. Ça va? Ça veut dire que chaque détail, chaque attitude, chaque événement, et chaque personnalité, elle s'inscrit dans une logique très très précise. Parce que vous faites, vous n'irez jamais le calcul. Parce que pour qu'Israël ait cette qualité, il a fallu qu'il développe un certain conditionnement. Donc il a fallu qu'il passe par certaines épreuves. Donc, et tout ça, pourquoi? Pour qu'au moment où il reçoit la bracha, il ne maudit pas son fils. C'est qu'en dehors de ce que lui, ça lui a apporté personnel, à part qu'il a amené dans l'âme Israël de cette mida, il y avait un événement là. Il y avait un événement. Imagine, il aurait maudit Yaakov. Adassam jusqu'à la fin des temps. Ouais, tu vas me dire, bon, non mais c'est une erreur, c'est pas grave. Klalat Racham, Alfilou Alchinam, bah, comment elle est morte Rachel? Comment elle est morte Rachel? Parce que Yaakov l'a maudit par erreur. Il l'a maudit par erreur. Il ne savait pas que c'était elle qui avait pris les idoles de là-bas. Il s'est énervé, il a dit, celui qui a pris les idoles qui meurt. Mais lui, jamais il a pensé que quelqu'un de sa famille a plus forte raison, sa femme qu'il aime. Et ben elle est morte. Elle dit la Gemara, Klalat Racham a fui le Hinam ba. Alors imagine la Klalat de Yitzhak qui n'était pas le Hinam, elle n'était pas pour rien. Comment elle serait déroulée jusqu'à aujourd'hui? Ouais, parce que Maase Avot Siman Abalim. Jusqu'à aujourd'hui, on aurait subi la malédiction de Yitzhak. Où il va trouver la force Yitzhak de ne pas maudire son fils, Midat Agvura? Donc attention maintenant. Il fallait que Yaakov trompe son père. Et il fallait que son père se trompe. Mais il ne fallait pas qu'il maudisse, malgré qu'il s'est trompé, pour que lui reçoive la bracha. D'accord? Alors il a dit maintenant, il a senti quoi? Réarbegadal. Il a senti l'odeur des habits. Le Midrash, il dit, ainsi créé Réarbegadav, et là Réar Bogdav. Boged. C'est quoi Boged? Boged, c'est le rebelle. Oui, c'est celui qui remet en cause. Je ne comprends pas. Maintenant, il s'est rendu compte qu'à la fin, à la place de Esav, c'était Yaakov. Et malgré qu'il s'est rendu compte de ça, il a quand même dit, c'est normal qu'il soit béni. Pourquoi il a trouvé normal que Yaakov reçoive la bénédiction, alors qu'on voit trop qu'il pensait philosophiquement depuis le départ que Yaakov n'en avait pas besoin? Il a senti l'odeur qui était bonne. L'odeur qui était bonne, ça prouvait que quoi? Que Yaakov était un tzadik, et que Esav était un rachat. Parce que quand Esav est rentré, il a senti l'odeur du Géinam. Là, il s'est rendu compte de la vraie teneur, la vraie nature de Esav. Mais pourquoi? Comment il a compris? Pourquoi est-ce que finalement il a fallu cette erreur? On a dit qu'il était nécessaire pour que Yaakov il reçoive la bracha de Esav. Alors il dit, c'est quoi Réar Begadav? Il a senti en prophétie, Yaakov il a compris, qu'à la fin des temps, pas maintenant, mais plus tard, pas à l'époque où il a reçu la bracha, que plus tard, il allait avoir des descendants de Yaakov, du Ham Israël, attention, qui vont porter les habits de Esav. assimilé. Oui. Qui vont parler le langage de Esav, assimilé. Qui vont manger le manger de Esav, debout milé. C'est au-dessus de assimilé. Et assis, debout, oui. Mais, ces juifs-là, qui sont loin de la Torah, quand ils vont étudier la Torah et qu'ils vont faire teshuva, on va sentir, chez les Baal et teshuva, on va sentir Réar Gan Eden. Regarde le Cheshbon, ouais. Que c'est les habits de Esav qui vont faire qu'ils vont avoir Réar Gan Eden. Pourquoi ? Une fois quelqu'un m'a dit, mais comment vous expliquez, il y a de plus en plus de gens dans les cours, combien des milliers de personnes, entre 2 et 3 000 personnes par semaine. Que pour moi, je ne sais pas les autres comment ils font, ouais. Je sais moi ce que j'ai comme personne, ici 200, ici 300, ici 300, 150, 100, 200, 30, chaque jour, tous les jours. Ça fait beaucoup à la fin. Tu dis, mais comment ça se fait ? Alors, tu sais ce que je leur réponds, moi ? Je leur dis, parce que la société, elle travaille pour nous. Elle est tellement nulle, elle est tellement débile, la société, la radio, la télé, elle est tellement débile, que quand les gens, ils entendent une phrase, ils disent, mais attends, c'est la folie, ce truc-là. Mais c'est de la folie ! Ouais ? Dans une phrase de Torah, il y a 1 million d'heures de télévision. Il y a la moitié de la Sorbonne. J'ai raconté il y a des gens tout à l'heure, on a une librairie Goy qui a commandé des livres. Ouais. On lui a amené ces livres. Nous, on croyait que c'était une librairie Goy avec un rayon juif. Complètement Goy, librairie philosophique rue Saint-Lazare dans le Paris 9e. Quand la personne qui amène des livres, elle a amené, le mec, le patron de la librairie, il a fait comme ça, il a fait... C'est-à-dire, presque il a dit Berouchim Abaim. Oh, merci. Mais quel livre. Je l'ai lu 3 fois. Mais quelle puissance. Mais quelle lumière. Un goy. Un juif, il faut le payer pour qu'il prenne le livre. Le goy, il lit le livre, il tombe par terre. Le juif, il lit le livre. Oh, le début, c'est un peu difficile. Oh, vous avez employé un langage dur. Oh, c'est écrit petit. Le goy, il lit le livre. Il te dit, mais Torah Mina Shamaim. Il se lève la nuit, il n'en peut plus. T'envoies des emails, tu pleures, tu lis les emails, tu dis c'est pas possible. C'est Moshe Rabbeinu, le mec, c'est un guérou de Moshe Rabbeinu. Et le juif.
Ah, il est épais quand même, hein.
Vous pouvez pas mettre des images. Faites un dessin animé, on va le lire. C'est normal. Comme le juif, il a mis à étudier la Torah. Il a mis ça de ne pas étudier. Le goy, il n'a pas mis à étudier la Torah. Donc la lumière, il la voit direct. Ce que je voulais vous dire, c'est que ces gens-là, c'est très rigolo. Parce que la semaine dernière, quelqu'un comme ça aussi, qui est très très dans le... Il m'a dit, écoutez, Ria, j'ai un problème. Il m'a dit, vous savez, toutes ces semaines, on entend que un tel journaliste, en fin de compte, sa grand-mère est juive, ce chanteur-là, finalement, cet acteur-là, finalement, cet homme politique, en fin de compte, on voit que du côté de son grand-père, il est juif. Celui-là, il dit, alors, combien on est ? C'est compliqué, vous comprenez ce que je veux dire, non ? C'est-à-dire qu'il va venir Mashiach, il va prendre un gros paquet de Esav, il va leur dire, mais toi t'es juif. Alors ceux-là, ils ont quoi? Ils ont les habits de Esav. Oui.
Comment tu peux l'imaginer, celui-là qui était assimilé, qui mangeait du porc et des huîtres le soir de Noël, ouais, il a fait une grande teshuva, et maintenant il est assis à Yerushalayim, et c'est le meilleur de sa yeshiva. Alors, tu vois. Ouais. Donc, même quelqu'un me racontait, moi j'ai un ami à moi, que son beau-frère, il est responsable de, un des responsables de la yeshiva à Moscou. Il m'a dit à l'époque, il y a 20 ans, 25 ans, le Rav Moshe Soloveitchik, il a dit, il faut absolument travailler pour développer la Torah. Il a dit pourquoi ? Il a dit, malgré les 70 ans de communisme, il a dit, il y avait tellement de Torah en Russie, il y avait un tel niveau de Torah et de Kedusha. Il a dit, dès que vous allez dépoussiérer, vous allez voir. Il a dit un truc incroyable. Il a dit, on prenait des gens dans les facultés, ils ne savaient même pas parler un mot d'hébreu. Ouais. En 3 mois, ils savaient parler l'hébreu. En 1 an, ils étaient dans la Gemara. En 3 ans, ils les envoyaient dans les Shivot. En 2 ans, ils étaient les meilleurs de la Yeshiva. Mais de la Géolout. Il a dit, la Géolout faisait Chavout avec le Rosh Yeshiva. Et après, il fouille dans les papiers, qui tu es toi ? Ah, lui, c'était l'arrière-petit-fils du Magui de Mezerich, et c'est lui, c'était le petit-fils du Gaon de Atel, et celui-là, ils tous. T'as compris ou non ? C'est toi, tu crois que c'est l'égoïme ? Tu crois que c'est Esav ?
Ils ont les habits de Esav. Oui ? Mais quand tu remues un petit peu,
qu'est-ce qui sort? Réar Ganeden, l'odeur du Ganeden. Pourquoi? Parce que la bracha d'Israël. Que Altikrit Begadav et la Bogdav. Que ces gens-là, les Bogdim, justement, c'est ceux-là les plus dangereux. Ouais? Et ceux-là les meilleurs. Les Bogdim, c'est eux qui disent, hein? C'est eux qui disent, écoutez, écoutez, vous me dites la Torah, vous me dites la croix, je n'ai pas vraiment de problème, je suis très ouvert. Mais c'est lui qui te dit, non! Contre la Torah! Contre la Torah! Ouais, de gauche, tellement de gauche qu'il est tombé dans le trou. Ouais? Celui-là qu'on va faire tes choux, sa haine, il va en faire de l'amour. Ouais, son Keneged, il va devenir un Mitnaged. Ouais. Le contraire, il va devenir une bombe. Pourquoi? Parce que c'est Bogdav. C'est rien avec Gadav, c'est Bogdav. Donc pendant que tu réfléchis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a utilisé Yitzhak parce qu'il savait qu'à la fin des temps, il y aurait une partie de Yaakov qui aurait besoin de cette bracha-là. Ne regarde pas de Yaakov d'aujourd'hui. Regarde le Yaakov de la fin des temps. Le Yaakov de quoi? Du Ekev de Yaakov. Ekev, c'est Ekveta de Meshicha. C'est la fin de Yaakov. Ouais. Mais ce qui est rigolo, c'est que la fin de Yaakov, c'est aussi la fin de Esav. Parce que le Ekev de Esav, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Akavani, pas Amaïm. Ouais. Il m'a attrapé par le talon. C'est ce qu'il a dit à Tahana, il a dit à Yitzhak, il a dit, mais je ne comprends pas. Maintenant, pourquoi est-ce que tu veux que Yaakov y reçoit maintenant la bracha, Baolamazé ou Baolamaba? Parce qu'il existe les deux. Parce qu'on dit, Lamas Minimba, ouais, c'est Rouhaniout, Lamaï Minimba, celui qui prend la Torah par la droite, il reçoit le spirituel, celui qui prend la Torah par la gauche, Osher Bekavod. Donc il existe la bracha de Geshmiout même dans la Torah. Le Rabbi, il a eu la richesse, la Gdoula et la Torah. Ça existe les deux. Mais la Gdoula dans Am Israël, la grandeur et la richesse dans Am Israël, ça c'est la bracha de Esav, c'est pas la bracha de Yaakov. C'est pour ça que la personne doit mettre la richesse au service de la Torah. Sinon il révèle qu'il est Esav, il ne révèle pas qu'il est Yaakov. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Il a dit Esav à Yitzhak, il a dit de toute façon. C'est marqué qu'à la fin des temps, quand ça sera le Ekev de Esav, c'est là qu'il va remonter Yaakov et qu'il va gagner. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, les Bnei Israël, ils vont dominer. Mais à l'époque du Mashiach. Mais avant ça, il reste en dessous du pied de Esav. Ils sont sous la domination. Ol Malchuyot. Ils sont en dessous de la domination des peuples. Alors comment ça se fait que maintenant tu as inversé la bracha, que maintenant ils vont dominer et non pas à la fin des temps? Et le contraire, on l'a dit pour Yaakov, qu'en vérité, c'était pas à ce moment-là qu'il avait vraiment besoin de la bracha, c'était à la fin des temps, qu'au moment où les Bnei Israël vont être complètement en dehors, et très éloignés de la Torah, c'est là qu'ils auront besoin de cette bracha pour qu'ils puissent faire teshuvah. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque élément, en vérité, si encore une fois, plus on fait les comptes, et plus on regarde, et plus on voit que chaque élément, il se met en place d'une manière très précise. Oui. Et encore une fois, on voit que non seulement l'erreur, elle est possible, mais que l'erreur, elle est nécessaire. Donc maintenant, quand on dit que Rivka, par exemple, on a dit pourquoi Rivka, elle s'est mêlée. De toute façon, elle savait très bien que l'histoire, elle allait se faire. Et c'est ça la question que le Ran y pose. Dans les Drashot Haran, le Ran y pose la question, il dit, mais qu'est-ce qu'elle avait besoin de se mêler? Parce que de toute façon, elle avait eu en prophétie que son fils, Yaakov, c'est lui qui va être la suite. C'est pas Esav qui va être la suite. La logique qu'on a dit, c'est quoi? C'est en vérité, l'histoire elle va se faire. Mais le problème, c'est qui c'est qui va être sur la photo? Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il a déjà écrit l'histoire du monde. Il a écrit l'histoire du monde. Mais il n'a pas fixé les acteurs. Qui c'est qui va jouer le rôle de quoi? Maintenant, Hachem, il a besoin de Tzadikim, il a besoin de Rechaim. Maintenant, dans l'absolu, nous on doit être capable d'imaginer que ça serait très possible que Yaakov, il aurait mal tourné et qu'il aurait été un voyou. Oui? Et que Esav, il aurait été un salé. Puisqu'on dit qu'il a libre arbitre. D'accord ou non? C'était possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle sait que l'histoire, elle va se faire. Mais elle, sa mitzvah à elle, c'est de participer. Elle doit aller participer. Donc elle doit faire ce qu'elle est capable de faire. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Elle est capable, avec sa prophétie, de comprendre la situation. Elle est capable d'intervenir pour faire, pour donner. Elle donne des conseils à Yaakov, c'est à elle de le faire. C'est son travail à faire. Donc moi je pourrais dire, écoute, les enfants ils sont comme ils sont, pourquoi je vais intervenir? Non, tu parles avec eux, tu fais les devoirs, t'es gentil avec eux, tu fais ton rôle de mère. Toi tu fais ton rôle de père. Tu dis pas, de toute façon ils sont comme ils sont, c'est leur madal. Non, parce que si tu n'as pas fait ce que tu avais à faire, on va dire que c'est à cause de toi.
Maintenant, la question, c'est si tu fais ce que tu vas faire, est-ce qu'on va dire que c'est grâce à toi? Oui, c'est pas grave, tu l'as pas fait pour ça, tu l'as fait parce que tu devais le faire. Il dit donc, ça veut dire que le travail qu'elle avait à faire, Rivka, c'était de se mettre en situation de responsabilité. Elle fait ce qu'elle a à faire, jusqu'au dernier détail. Parce que par exemple, quand il demande quand elle a dit à Jacob, mais mon père, il va me maudire. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Elle a dit, la clala, elle est sur moi. Il dit le malbim, il dit, mais tu ne peux pas détourner la clala. Si Israël, il maudit Jacob, tu ne peux pas dire la clala, elle est sur moi. C'est impossible. Oui. Alors regardez comment il explique, il dit.
C'était de sa faute. De Rivka, qu'elle a envoyé son fils.
Exactement.
Alors la clala, c'est pour elle.
Ouais, mais
c'est, non, elle mais... a obligé son fils, va là-bas, elle
envoie. Voilà. Alors, mais c'est pas seulement que parce que dans l'absolu, c'est à cause d'elle. C'est parce qu'elle, elle a dit, eh ben, tu diras à ton père que c'est moi qui t'ai envoyé. C'est que lui, que Yaakov, Israël, il a envoyé ça des kibou d'Avaem pour aller chercher les chevreaux pour avoir la bracha. Et lui, il a fait kibou d'Avaem, le kavod de sa mère, de l'écouter, qu'elle lui a ordonné d'aller prendre la bracha. Pour dire que la clala, elle va aller chez elle et pas sur Yaakov. Pourquoi? Parce que jusqu'au dernier moment, il avait peur. Alors on a dit, ça on comprend pourquoi est-ce que Rivka est obligé d'intervenir. Après on a demandé, mais pourquoi est-ce que Yaakov il était obligé de mentir? Normalement, quand quelqu'un il va dans un chemin, ben derrière chez Rossi Lélaire, quand il écrit une auto, je vous crois qu'il n'a pas besoin de lui proposer le contraire. Toi tu penses par exemple qu'il faut aller d'après le Emet. Donc tu rencontres des gens Emet, avec qui tu fais du Emet et des choses Emet. D'accord? Toi tu vas dire, non tu sais, eh bien peut-être que c'est vrai que tu vas d'après la vérité, mais de temps en temps, il faut mentir pour la vérité. Alors les négoïmes, ils appellent ça la fin justifie les moyens. Mais est-ce que d'après la Torah, on peut dire la fin justifie les moyens? Oui ou non?
Non.
Oui ou non?
Non.
Alors pourquoi il a menti, Yaakov? Adam Lecha. Pourquoi il a menti si c'est pas parce que la fin justifie les moyens? Hein? Elle a le droit de mentir pour le kavod. Elle a le droit de tuer alors à ce moment-là pour le kavod. Une phase.
Ah, bouteille.
C'est marrant parce que je lui avais déjà donné cette réponse, mais c'est pas grave, je la redonne. En effet, la musique, elle est comme ça. Yaakov, c'est vrai qu'il a menti. D'abord, il n'a pas menti clairement, parce que là-bas, il explique là-bas les.
Oui.
Ouais. Il dit Annie. Parce que quand il est rentré dans la tente, il a dit Avi. Avi. Ouais, ben Yomer Avi, il n'a pas dit plus. Après, Israël, il a répondu Ineni, il a dit Miba, qui c'est qui est venu? Il a dit Ani, Bechorecha Esav. Alors il y en a qui, Rachid dit, il faut couper en deux, Ani, moi, je suis moi, Yaakov, Bechorecha Esav, et ton Bechor c'est Esav. Et le Malbim, il dit non, encore une autre explication. Il dit, moi, qui c'est qui a racheté la Bechora de ton frère, de ton fils, Esav? Ouais, c'est moi. Donc c'est moi qui suis ton Bechor Esav. C'est moi, le Bechor Esav, c'est moi. Parce que j'ai acheté la Bechora, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a menti ou il n'a pas menti? La logique, elle est simple. C'est qu'en vérité, il dit le Midrash, que Yaakov, il était tellement angoissé d'aller dans la tente pour obtenir la bracha de cette manière, que Rachid dit qu'il y avait deux anges qui le portaient pour aller, parce qu'à chaque seconde, il était en train de s'évanouir. Ça veut dire quoi? C'est nous, on a posé la question. Ah, mais à ce moment-là, si la fin justifie les moyens, alors donc même pour avoir la bracha, tu peux mentir. Alors pour le bien, tu peux faire des bêtises. Alors tu peux aussi tuer pour la patrie, et tu peux tricher pour la nation, et tu peux embrouiller pour le bien national. Donc tout est possible, en fin de compte. Donc la vérité n'existe pas, parce qu'elle est relative à tes besoins. Il n'y a pas de vérité? Non. Et puis quand est-ce que quelqu'un il sait si son mensonge, il est cachère? Seulement si ça le tue de mentir. Mais s'il arrive à avoir assez d'argumentaire intellectuel pour expliquer pourquoi il ment, et qu'il ment avec tranquillité, ça veut dire qu'il a changé de nature. C'est que l'homme qui est émet, ouais, quand il ment, ça le tue de mentir. Et l'homme qui est shaker, ouais, ça le dérange pas de mentir. Par contre, ça le tue de dire la vérité. T'as remarqué ça? Quand un menteur il est obligé de dire la vérité, on dirait qu'il va mourir. Dis-moi que tu m'aimes. Ah non, ne me demande pas ça. Ouais, c'est difficile. Donc, pourquoi? Parce que comme il est shéker, il est anti-émet. Ouais. Et quand il est émet, il est anti-shéker. Alors comment il va faire? Il faut qu'il vive le shéker, ouais, comme de l'anti-émet. Il le vit mal. Alors à ce moment-là, il peut. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a un Kabbalah où il va passer des générations, il va passer des choses. Malheureusement, aujourd'hui, par exemple, on fait du cadre de la Torah, on veut écouter la Torah, mais il y a eu des générations où les gens ils s'en fichent complètement de la Torah. Il y a 30 ans, tu serais venu à Milan, tu aurais dit bon, on va faire un cours de Torah, mais va chez ta mère, viens, on va... il y a l'exposition de Kukai. Il y a des générations où la Torah elle était jetée. Ouais, il y avait 3 personnes dans la ville qui connaissaient la Torah, tout le reste, zéro. Ouais. Vous rappelez les yeshivot de Beyrouth? Combien il y avait d'yeshivot à Beyrouth? Beyrouth. Ouais, il n'y en avait pas. Et maintenant aujourd'hui, regarde, les plus religieux de Milan, c'est des gens de Beyrouth. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup y fait, des fois ça monte, des fois ça descend. Comment ça s'appelle ça pour Yaakov? Ça s'appelle Sheker.
Ça s'appelle Sheker. Tu prends la définition. Yaakov. C'est pas Yaakov ça.
Ces juifs là, ouais. Tu imagine le Satan. Il est à côté d'Akash Bokhu. Alors il dit, bon, Hachem, dis-moi les juifs de Beyrouth là. Ils ont un rapport avec le judaïsme. Eh bien, ils font des Daka et ils vont à la plage ensemble. Ils mangent des boulettes de riz. Où sont les Tosfot? Où sont les Dapim de Gemara? Où sont les Mitzvot?
Eh bien, écoute, c'est déjà c'est mieux que rien.
Ça, c'est Sheker pour Yaakov. Maintenant, pour supporter ce Sheker, oui, pour supporter ce Sheker, il fallait que Yaakov il supporte ce Sheker. Parce qu'il va y avoir des Yaakov clairs et des Yaakov moins clairs dans les générations. Ça va?
Le contraire aussi.
Et ça, ouais. Et il n'a pas que des défauts, le pauvre. Il a fait des bonnes choses, il a fait des grandes choses. Alors, lui aussi, il a besoin d'avoir une bracha.
Donc, il y a le bon médecin, il y a le mauvais médecin. C'est-à-dire que tous les médecins, ils sont méchants.
Il y a des autoroutes, il y a des médecins, il y a de la recherche, il y a du bienfait, il y a le secours catholique. Il y a tellement de choses qui se font dans le monde. On va dire que tout Esav est pourri. Non! Alors il a besoin aussi d'une reconnaissance. Donc il y a la bracha de Esav aussi qui revient sur Esav. Alors il a un rôle à jouer par rapport à Israël, mais il a un rôle à jouer par rapport à lui. Après chacun, si c'est les Shem Shamaim ou c'est pas les Shem Shamaim. Comme la Gemara dit à la fin des temps, quand Hachem il va dire
aux Goïm, qu'est-ce que vous avez fait pour la Torah? Ils ont dit, nous on a fait des routes pour qu'ils aillent à l'Eshiva, on a fait des trains pour qu'ils aillent étudier, on a fait, ah bon, Daniel, ça vous l'avez fait pour vous.
Donc il y a aussi un côté qui n'est pas les Shem Shamaim. Mais aussi les juifs aussi, qui font vraiment les mitzvot pour Dieu, tu peux les compter sur les doigts de la main d'un manchot. Donc ça s'équilibre. De dire que quoi? Qu'il y a des vrais Yaakov et des faux Yaakov, et il y a des vrais Esav et il y a des faux Esav. Maintenant un faux Esav, il est proche en vérité, un faux Esav, il est proche d'un faux Yaakov. Comme le vrai Esav, il est très très loin du vrai Yaakov. C'est les deux extrêmes. Et le contraire, les très proches, ils se rejoignent. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que quand tu prends chaque élément, chaque personne qui est impliquée dans cette histoire, oui, que Yitzhak,
il avait une erreur qui était nécessaire, et que c'était comme ça qu'il fallait le vivre. Alors toi aussi c'est pareil, tu dis, en fin de compte, peut-être que pendant des années je me suis trompé sur ce que je pensais de mon père, ou comment j'ai vécu l'histoire avec mon mari, ou que... Alors cette erreur, elle était bonne ou elle était mauvaise? Tu vois, cet enfant, j'ai beaucoup souffert parce qu'il a été renvoyé de l'école. Finalement, c'est quand il a été renvoyé de l'école que sa vie a changé. Et là-bas, dans la deuxième école, c'était super. Alors tu dis, c'était mauvais le renvoi, c'était bon. Au moment du renvoi, tu l'as mal vécu. Et après, tu l'as très bien vécu. Ces deux frères-là, ils ont commis un accident de moto tous les deux. Après, ils se sont rapprochés. Alors tu dis, alors l'accident, il était bon? Avant, ils ne pouvaient pas se voir. Ils avaient la haine contre l'autre.
Comment tu vas savoir?
Comment tu vas faire les calculs? Donc, on dit, si tu reprends encore chaque élément, ça veut dire que tu prends quatre personnages qui ont quatre destinées qui n'ont rien à voir. Yaakov, il a une destinée. Yiskel a une destinée. Yitzhak, il a une destinée. Et Esav, il a une destinée. Mais la confusion des destinées, c'est-à-dire la communion, la rencontre des destinées, qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Avec, encore une fois, le film, il peut être lu à l'envers. Parce qu'on a expliqué que, tout à l'heure, ce que je vous ai dit en rigolant, mais si maintenant vous l'écoutez, vous le regardez sérieusement, ça veut dire que le pauvre Esav, en fin de compte, il est victime. Parce que lui, il est venu demander sa bracha qui était la sienne. Ouais, à la guémarre. Parce que c'est comment ça se passe? Vous savez, comme les enfants qui font des bêtises. Ils font des bêtises. Mais quand est-ce qu'ils se font attraper? Le jour où ils n'ont rien fait. Vous n'avez pas remarqué ça? À l'école, ils disent, ouais, j'ai rien fait, le prof est tombé dessus. D'accord. Mais les autres fois, si tu les reconnais, t'avais dit, ouais, j'en ai fait 30. Mais cette fois-là, j'avais rien fait. D'accord. Mais les autres fois, t'avais fait. Alors pourquoi il se fait toujours attraper quand il n'a rien fait? C'est bizarre, non? Parce que la guémarre a dit que la punition du menteur, c'est qu'on ne le croit pas quand il dit la vérité.
Qu'on ne le croit pas quand il ment, c'est sûr. Mais maintenant qu'il dit la vérité, on ne le croit plus. Alors le menteur, il meurt. Parce que quand il a menti, c'était à cause du Yitzhara. Mais maintenant, il fait l'effort d'être sincère. Et toi, tu lui dis, eh ben, je te crois plus. Pourquoi?
Parce que quand lui, il a fini avec son Yitzhara, toi, tu commences avec le tien, tu fais une erreur judiciaire.
Vous comprenez cette logique-là? Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que Esav, il est dans une situation à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il est à l'envers. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il voulait, Esav?
Il voulait être un menteur, un tricheur et un voleur, mais il voulait la bracha.
Et non, c'est pas possible, c'est pas cohérent. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il croyait? Esav, il croyait que quand on est cohérent avec son incohérence, on a la bracha.
Ça marche pas.
Il y a 2 semaines, j'ai eu un cas de Shalom Bayit. Bon, après lui, c'est un couple religieux. Moi, je peux rien dire, mais alors religieux par le genou, il y a la barbe, tout. Enfin. Et la femme, elle vient avec la perruque, elle vient avec Sniout et tout ça. Et puis, dans le courant de la conversation, elle me dit, écoutez, vous savez que, quand on va à la plage, je remets mes lunettes, pardon, mais où on va à Cannes, on va à la plage. Elle me dit, je vais avec mon mari, je n'ai pas de souvenir qu'à Cannes, il y a une plage séparée. À Crasse peut-être, mais à Cannes, il n'y a pas. Elle me dit, mais de toute façon, pour les femmes, il n'y a pas de problème. Je dis, mais votre mari vient avec vous. Il est comme ça, hein, le matin. Elle me dit, oui, il vient avec moi. Elle me dit, bon, on se met un petit peu à l'écart. À Cannes, c'est pas à l'écart. C'est les sardines, une à côté de l'autre. Bon, c'est quoi l'écart? Pour aller à l'écart, il faut aller avec les requins. Elle me dit, non, mais vous en faites pas, hein, je porte un t-shirt. Et puis j'ai la tête couverte. Je dis, comment vous faites les jambes? Elle me dit, alors si je me couvre les jambes, c'est pas la peine d'aller à la plage. Je dis, bon, alors on récapitule. Donc vous avez un t-shirt jusque-là. Après, vous avez les jambes découvertes. Mais au prochain, vous avez la tête couverte. Je dis, vous savez, les jambes, c'est autant que les cheveux, ou pire, ou plus que les cheveux. Alors je dis, vous êtes quoi? Vous êtes juif jusque-là? Ou l'Équateur? Non, moi, ça me dérange pas, moi.
Moi, tu vas à la plage, ça ne me dérange pas. Tu vas pas à la plage, ça ne me dérange pas. Tu connais le Talmud, ça ne me dérange pas. Tu manges le porc, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais si tu étudies le Talmud et à midi tu manges le porc, là j'ai un problème. Et pas parce que moi j'ai un problème, parce que qui je suis moi? Je ne suis rien. Je suis une vapeur de souvenirs de rien. Ouais. Mais je me dis, comment ça se fait que tu viens chez moi pour essayer de régler tes problèmes d'incohérence de couple? Alors que toi, t'es incohérente chez toi et que Dieu, il voit ton incohérence à toi. Mais qui l'a, Vamina? Quel halom tu as que Dieu, il va t'aider à devenir cohérent alors que toi, tu es accepté dans ton incohérence. Tu acceptes ton incohérence. Alors après, tu dis, ouais, mais avec mon mari, on se comprend pas. Et puis, on n'est pas d'accord sur tous les deux. Et puis, des fois, on n'est pas d'accord sur la même chaîne. Ah, en plus, vous avez la télé. C'est-à-dire, je tombe des nues. Ah, puis, ouais, mais vous savez, les enfants ne nous écoutent plus, et on n'a pas le shalom à la maison, et ma fille elle me sert, mon garçon vous partir. Mais qu'est-ce qu'ils voient devant eux? Ils voient 2 cinglés qui ne savent pas ce qu'ils pensent. Il vaudrait mieux qu'ils aient 2 parents assimilés, qui sont clairs, et qui vont dire bon, on peut faire le contraire de nos parents et être religieux. Mais s'ils ont des faux religieux ou des faux assimilés, il y a des faux assimilés qui se lèvent la nuit pour faire la cabale, et des faux religieux qui se lèvent la nuit pour regarder la télé. Mais qui est le facteur commun entre faux religieux et faux mekoubal et faux assimilé? C'est quoi le facteur commun? C'est faux. C'est faux. Et le faux, il tient pas. Shikra, lokai, il tient pas. Le mensonge, il tient pas. Je sais pas si vous me suivez.
C'est-à-dire qu'un vrai assimilé, il a plus de chances d'avoir un enfant religieux qu'un faux religieux.
Et encore une fois, j'ai mis ça par rapport à la religion. Mais c'est pas que la religion, c'est dans toute la vie. Comme ça. Tu triches dans le business. Après, tu dis, pourquoi les clients, ils ne me suivent pas? Mais tu triches. Maintenant, ils ne le savent pas. Mais tu triches. Donc, peut-être, eux, ils ne le savent pas, mais le bon Dieu, il le sait. Alors, pourquoi le bon Dieu, il va être complice de ta magouille? Donc, tu vas finir avec les brigades financières. Ils viennent chez toi. Pourquoi sur moi? Ils sont tombés par hasard. Sur 7 millions de sociétés en Italie, ils sont tombés sur moi. Mais c'est le bon Dieu qui leur a donné ton adresse. Il a mis dans la tête de l'inspecteur, vas-y, appuie n'importe où sur la souris, tu vas tomber sur cette société, c'est là-bas qu'il faut aller. C'est les magouilleurs. Tu sais, tu comprends?
Le bon Dieu m'a oublié, le bon Dieu. T'as pas oublié le bon Dieu, c'est que le contraire. C'est que le bon Dieu, il veut pas rentrer dans ton incohérence. Donc si toi t'es incohérent, lui il reste cohérent. Donc, Yaakov, il avait une épreuve. Ouais. Comment on vit le mensonge? Quand on est à Emet, comment on vit le mensonge? C'est son épreuve à lui. Rivka, elle avait une question. Quand on connaît l'avenir, pourquoi est-ce qu'on doit intervenir? Elle avait une question. Yitzhak, il avait une question. Ouais. Quand on se trompe, qu'est-ce qu'on doit faire quand on s'en rend compte? Et Sam, il avait une question. Jusqu'à quel âge tu peux mentir? Jusqu'à combien tu peux croire que tu peux rouler le monde? Il y avait un moment ou un autre, tu vas te la prendre dans la figure, la vérité. Oui? Chacun a des questions. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait HM, encore une fois? Il crée des couples, il crée des situations où chacun se retrouve en face de l'autre. Maintenant, encore une fois, il y avait deux solutions. Soit chacun, il pouvait renvoyer chez l'autre. Imagine maintenant, et ça, il pouvait dire, ouais, de toute façon, on ne m'avait pas aimé, mon psy m'a bien expliqué, c'est parce que tu m'as pas donné la tendresse, toi, il sera, tu n'as pas étudié avec moi la Torah, c'est pour ça que je suis devenu un rachat.
Arrête.
Comprenez ou non? Qu'elle pouvait dire, de toute façon, son mari, il ne sait pas quelqu'un qui intervient, il ne se prend pas en main, il n'a rien dans le pantalon, c'est normal que j'intervienne. Elle n'a rien dit. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a fermé sa bouche. Pas qu'elle accuse et elle ne fait rien. Elle travaille et se tait. C'est ça son rôle. Donc chacun, il a joué exactement son rôle. Vous me suivez ou non? Maintenant, la première question qu'on a demandé, mais pourquoi Hachem, il a fait tellement compliqué? Normalement, l'histoire, c'était simple. Qu'Yitzhak, il se rend compte, soit parce qu'il reçoit en prophétie, soit parce que le rab de Hachem Véver, il va lui expliquer, soit parce que Rivka, il va lui faire convaincre que Esav s'est entendu, Esav, il va partir dans sa vie de dépravation, et Yaakov, il va recevoir la bracha, et l'histoire d'Israël, elle coule. Pourquoi Hachem, il a fait l'histoire compliquée? C'est pourquoi? Parce qu'elle est compliquée. La vie, elle est très compliquée. C'est pour ça qu'on peut pas être là. On peut pas prendre la vie comme des tmimim. On peut pas être nia. C'est assuré d'être nia. Oui. Et ça, c'est un grand paradoxe de la Torah. Que d'un côté, un homme, il doit être extrêmement haram dans ses calculs. Ouais. Mais dans sa relation avec le monde, avec Hachem, il doit être extrêmement tam. T'as ni le droit d'être tam tout le temps, ni d'être haram tout le temps. Parce que racham tout le temps, ça veut dire que tu vas croire que c'est toi qui maîtrises le système. Tu as oublié, Baba, que c'est ton Dieu le bon Dieu. Tu peux pas être non plus tout le temps tam, parce que dans ta part à toi, tu n'as pas le droit d'être idiot, il faut que tu sois intelligent. Après, quand tu as défini où est-ce qu'elle est ta part de Ishtadout, où tu dois être racham, et ta part de Bitachon, où tu dois être tam, c'est la part de Dieu, et que tu as bien défini, parce que c'est difficile de définir, parce que ça bouge tout le temps. Dans chaque situation, il y a une part à toi, une part à Dieu. Ouais. Dans le business, il y a une part à toi, une part à Dieu. Dans le couple, il y a une part à toi, une part à Dieu. Dans l'éducation, il y a une part à toi, une part à Dieu. Alors comment tu vas savoir quand est-ce que c'est toi, quand est-ce que c'est le bon Dieu? Donc ça, pour ça, pour faire le calcul de savoir exactement ce qu'on attend de toi à chaque situation, il faut beaucoup de remarques. Et il ne faut pas le prendre non plus pour le bon Dieu. Et si tu fais nia, tu dis c'est pas grave, j'éduque pas les enfants, mais j'aime les veilleuses. Il y a des gens comme ça. Dis-moi, j'éduque pas mes enfants, mais tous les soirs, j'allume des veilleuses. Après, tu t'étonnes, tous les gosses, c'est des allumés.
C'est
des allumés. Les veilleuses, les bougies, les nerot, madlik nerot, madliket nerot, mais non mechanechet et hayeladim. Là, c'est un chinour, on a un col de ségoula. Ouais. Donc, vous avez compris une chose extraordinaire. Ouais. C'est que dans la confusion de la réalité, un homme, il doit être extrêmement chacham. Et en même temps avoir un très grand bitachon. Et c'était ça la qualité de Yaakov. Qu'il est en même temps, il a une yashrut extraordinaire au niveau de l'esprit, il a une capacité intellectuelle énorme, et en même temps, Ishtam Yoshev Oalim, qu'il a cette capacité de simplicité, d'être entier à 100% avec Akadosh Baruch Hu pour que ses choix se réalisent. Voilà. Alors on va juste à nouveau dédier le cours pour tous les tzadikim d'Israël, et en particulier pour Moni Shlomo Ben Latifé.
Amen.
Et pour Benjamin Ben Esther Georgia.
Amen.
Et pour Yosef Ben Julia.
Amen.
Et pour le Rav Gabriel Holzberg et sa femme Rivki qui ont été assassinés à Mombé là-bas.
Amen.
Et pour les soldats et pour le couple aussi des Israéliens qui a été tué, qui a joué au coup d'élève dans Neshamot parmi tous les malades d'Israël.
Amen.
Et Amavdi Ben Haïm Nemetim, on va aussi profiter de la tournée de route pour bénir tous les malades d'Israël. Vous voulez rajouter quelqu'un? Tous les malades d'Israël, en particulier les noms que je vais vous donner maintenant, si vous pouvez répondre, amen, ça fera beaucoup de bien. Pour Avram Shimon ben Simcha,
amen.
Simcha bat Felecha,
amen.
Eliyahu ben Aisha,
amen.
Yitzhak ben Aisha,
amen.
Chana bat Aziza,
amen.
Gabriel Eliezer ben Evelyn Aziza,
amen.
Rivka Basha bat Chaya Hana,
amen.
Rav Azimov,
amen.
Rav Mordechai Eliyahu.
Amen.
Rav Eliashiv.
Amen.
Pas de malade, non?
Menachem.
Mendel Ben. Ben Rivka.
Amen.
Michael Ben Eliyahu.
Amen.
Myriam Batlinda.
Amen.
Pas de malade, Milan? Bichlal Kol Chole Avecha Yisrael.
Amen.
La prochaine date, c'est.
Allô,
allô. 31 décembre. Le 7 janvier.